Vous écoutez
RMC. RMC Intégral Sport.
Christophe Cessieu.
Bonjour à tous, bienvenue, c'est l'Intégral Sport. Un dimanche exceptionnel à vivre aujourd'hui sur RMC. Il y en aura vraiment pour tous les goûts du football, évidemment, avec dans un instant le coup d'envoi de Lille 3 qui sera suivi des autres rencontres de la journée. Le Mans Lens à 17h15 et Brest PSG à 20h45. La Formule 1 également avec dans 5 minutes le départ du Grand Prix d'Espagne sur le nouveau circuit de Madrid. Et puis, vous le savez, le grand événement du jour, ce sera ce soir à 20h à Berlin, la finale de la Coupe du Monde de basket entre la France et les États-Unis. Nous irons, si tout va bien, à Berlin dans quelques minutes pour humer l'atmosphère qu'il règne avant ce grand match et cette revanche de la finale des Jeux Olympiques. Et puis d'autres événements tout au long de la journée, je vais vous en parler cet après-midi avec moi, comme tous les dimanches. Elle est là, Charlotte Largeret. Bonjour Charlotte.
Bonjour Christophe, bonjour à tous.
La reine du dimanche après-midi.
Exactement.
La reine de la Ligue 1, avec ce beau match entre Lille et Troyes. On va y aller dans un instant. Petit mot sur la rencontre. Les Lillois qui ont.
Les Lillois qui veulent gagner aujourd'hui. Troyes qui.
Histoire
qui
de penser leur play de.
Ah bah oui.
D'Europe, quoi.
Il y a eu quelques changements. On va vous en parler rapidement. Mais en tout cas, ça promet quand même une belle rencontre parce que les Troyens, ils font du beau jeu depuis le début du championnat.
Très bien. Ce match qui sera commenté par Kevin Morand. Voilà, il devait partir en Espagne. Finalement, il est resté à Lille aujourd'hui. Qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Salut Kevin.
Salut Christophe.
Tu devais même aller au Canada, je crois, me semble-t-il.
Alors, on sera du côté de Montréal ce soir aussi.
Avec ta soucoupe volante, tu es capable d'aller partout. Kevin, un mot sur cette rencontre, les enjeux de ce match qui va débuter dans un instant.
Oui, vous le disiez, le LOSC qui a été battu à Pierre-Mauroy dans ce même stade mardi par le Betis Séville pour son premier match de Ligue des Champions. Il y a donc trois changements du côté de David Ancelotti dans le 11 de départ, avec le capitaine Benjamin André qui est laissé sur le banc cet après-midi, remplacé par N'Galaye El Moukho, et puis également peut-être la sanction pour Ethan Mbappé, exclu, on le rappelle, en début de seconde période mardi contre le Betis, et qui est également remplacé par Dylan Bakoua, prêté, et première titularisation donc pour l'ancien Strasbourgeois. Gaëtan Perrin est également laissé sur le banc avec la titularisation du jeune Bassar Önal qui est arrivé cet été de Nîmes, jeune turc, donc titulaire sur l'aile gauche du côté du LOSC. Et puis du côté de Troyes, Beach est dans le but, avec également Ouzenadji, Dias, Monfray, Marronnier, Antoine Mille, le milieu de terrain, Diop également au milieu, Karim Diawara et Picard, et Jérémy Ledouaron, l'ancien Brestois, titularisé en pointe de l'attaque du côté Troyenne. J'avais pas donné la composition entière du LOSC, donc c'est Berke Heuser qui est dans le but, Santos, Ngoy, Alexandro et Perrault en défense, Moukho, je le disais, avec Ben Taleb associé au milieu de terrain, Bakoua, Haraldsson, Önal pour les milieux offensifs, et Weda, le nouveau buteur du côté de Pierre-Mauroy, donc titulaire en pointe de l'attaque lilloise.
Ah, une bonne pioche que ce japonais qui est arrivé, Charlotte, et qui a déjà marqué un but en championnat, un but en Ligue des Champions, pour que ça dure.
Oui, c'est vrai que c'est un petit peu la doublure d'Olivier Giroud. Il est encore titulaire. Il a marqué lors du week-end dernier. Donc on va voir si aujourd'hui il va encore plus montrer ce qu'il sait faire. C'est un attaquant un petit peu comme Olivier Giroud. C'est pas un attaquant qui est très rapide, très explosif, mais
statique,
il se place très très bien.
Et qui sait bien se placer.
Il attire les défenseurs.
Il attire les défenseurs.
Exactement.
Et les ballons. Ça c'est bien ça.
Exactement.
Parfait. Le coup d'envoi va être donné dans un instant. On parie tout de suite sur ce match.
Winamax, le plus important, c'est de gagner.
C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax.
Avec Jesse Livingro qui va nous donner les codes. Salut Jesse.
Salut Christophe, salut à tous. Je vous donne les codes de ce match. Lille est favori à domicile, côté à 1,45, 3 côté à 5,60, le match nul lui à 4,60. Moi je vous propose un petit my match avec la victoire de Lille et Ueda buteur. Vous l'avez dit, il est en feu, la nouvelle recrue japonaise de Lille. Donc ça fait une cote à 2,05. Ça double la mise, pour moi c'est cadeau. Charlotte, je sais que la France attend ton pari.
La France, le monde entier,
exactement. Tu peux nous le donner. Infantino est derrière son histoire, il attend.
Non, je verrais quand même un petit match nul parce que Troyes, ils ont pris une fessée le week-end dernier. Ils montrent quand même de belles choses. Lille qui cette semaine contre le Betis, ils ont eu la défaite. Donc je vois bien un match nul, 1-1. Tu veux les buteurs aussi? Le Doiron, ça prend la titularisation du côté de Troyes.
Eh bien écoute,
et Dylan Bakoua. Dylan Bakoua du côté
pour le Doiron et 3-25 pour Bakoua. Ça se joue aussi, totalement.
Ça se joue.
Très bien. Donc tu dis combien?
1-1.
1-1. Voilà. Quand elle pronostique un match nul, souvent il y a match nul. Et la semaine dernière, elle avait dit 3-1, ça a fait 6-2, donc c'est le double. Donc vous voyez un peu comme vous pouvez. Et vous débrouillez avec ça. Merci Jesse. Ça vient de partir, Kevin, à l'instant.
Le plus important, c'est de gagner.
C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax.
Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Oui, il faut surtout pas couper le jingle, Mister Kevin Morand, pour le coup d'envoi de ce match.
Le coup d'envoi donné par Ngala Yelmoukou, titulaire donc à la place de Benjamin André au milieu de terrain côté Lillois, et le ballon déjà dans la défense côté Lillois, donc avec Berkhauser notamment qui avait rapporté, permis de aux nordistes de ramener la victoire de Toulouse la semaine dernière en Ligue 1 avec ses 10 parades. Un petit braquage du côté de la Haute-Garonne pour les nordistes donc, et qui vont essayer de se remettre d'aplomb après leur défaite inaugurale en Ligue des Champions cette semaine. Le ballon sur le côté gauche avec Eunal, je disais, titulaire pour également cette recrue de l'été côté Lillois. Et là, ce ballon sur Thiago Santos au milieu de terrain, à la faute récupérée par le joueur justement Lillois au niveau de la ligne médiane, avec donc la possession lilloise déjà qui se met en place pour ce début de match du côté du stade Pierre Monroy, qui quand même fait le plein pour un match contre un promu. 44 000 spectateurs cet après-midi avec donc ce match pour se remettre d'aplomb. Et ce ballon vers Ueda dans la surface de réparation sur le coup franc joué par les nordistes. Ça ressort avec Bakwa sur le côté droit. Mouko maintenant qui redonne à Bakwa sur l'aile droite. Bakwa qui va donc connaître sa première titularisation, lui qui est prêté par Nottingham Forest. Le ballon dans la surface avec Ueda, servi à l'entrée de cette surface, le japonais qui met sur Bakwa, la frappe de Bakwa, le poteau est derrière Alisson qui vient mettre le ballon au fond des filets. L'ouverture du score rapide, 2 minutes de jeu seulement à Pierre Monroy, et déjà Lille qui passe devant avec la frappe de Bakwa sur le poteau et derrière Alisson qui est là, qui est dans la surface de réparation pour mettre ce ballon au fond. 2 minutes et le LOSC est devant 1-0 face à 3.
Ah oui, la défense troyenne qui s'est fait prendre presque par surprise. Sur ce coup-là.
On s'attendait forcément à une réaction, hein, le jeu en pivot avec Ueda qui attire beaucoup, je le disais juste avant, et puis derrière Haraldsson qui est bien positionné, qui se remet dans la ligne pour pas être hors jeu. Mais après il y a de la réussite, hein, il y a poteau, mais par contre voilà, on attend de la réaction du côté des Lillois, Dylan Bakwa qui est bien présent aussi, qui est lancé. On est sur le reculoir côté des Troyens qui, eux, la semaine dernière contre Strasbourg, avaient marqué très rapidement. Et là, finalement, ouais, c'est les Lillois.
Il est passé 3 fois, le gardien. Il s'est fait passer 3 fois. Le premier tir, le ballon qui rebondit sur la barre. Là, il ne le voit pas rebondir. Paf,
Derrière, c'est dur, hein, Christophe.
Ah oui, non, bien sûr. Surtout qu'il est dos à son poteau. Mais enfin, 3 fois en l'espace d'une seconde, c'est quand même pas mal.
Oui.
Haraldsson, l'Islandais qui avait déjà marqué contre le Paris Saint-Germain, Lille qui menait 2-0 et qui avait été rattrapé en fin de match par les Parisiens. On vérifie quelque chose là du côté de l'arbitre. Alors, visiblement
on va revenir vers toi dans un instant, Kevin, mais on va partir, tu sais, pour Madrid, car les voitures sont en train de s'installer sur la grille. Le tour de formation est terminé et donc le Grand Prix d'Espagne va pouvoir débuter dans un instant. Jean-Luc Roy va nous faire vivre ce Grand Prix et on est ravis de l'accueillir. Salut Jean-Luc.
Oui, salut Christophe, salut Charlotte et bonjour à tous.
C'est donc quasiment le départ dans sur ce tout nouveau circuit qui est pas en centre-ville de Madrid, mais dans la banlieue madrilène, avec ce nouveau circuit dont on a beaucoup parlé. On l'évoquait hier avec notamment cette espèce de virage dont on parlera tout à l'heure. En attendant, on dit que c'est un circuit casseur de voitures, casseur de mécanique. Va falloir tenir tout au long de ce Grand Prix dont le départ va être donné dans un instant, Jean-Luc.
Oui, absolument, Christophe. Il y aura 57 tours à parcourir de ce tracé long de 5 km 416, tu l'as dit. Et surtout, ce qu'il faut prendre en considération, c'est la monte pneumatique. Je n'ai jamais vu une monte aussi disparate. Il y a 3 pilotes qui ont choisi les pneus soft les plus tendres. Verstappen qui partira 3e, donc sur la 2e ligne, avec Hamilton, la première des Ferrari, à ses côtés. Et puis beaucoup plus loin, Hülkenberg partira 11e avec les soft. Les médiums pour la première ligne avec Norris, la 19e pole de sa carrière, la 3e de la saison, et Antonelli à ses côtés. Et puis il y aura donc 7 pilotes en médium et 12 en dur. Alors maintenant, les derniers voilà vont se ranger sur la grille de départ. On va agiter le drapeau vert en fond de grille, voilà qui est fait maintenant par le commissaire. Et à l'extinction des feux, eh bien ce sera parti pour 57 tours. Attention, on attend des frictions évidemment sur ce tracé. On en a vu beaucoup en Formule 2 et en Formule 3 lors des autres épreuves. L'extinction des feux, c'est maintenant. Les pilotes sont partis avec Doris, on le rappelle, en pôle. devant Antonelli, Verstappen et Hamilton. Est-ce que la monte pneumatique va jouer? Eh bien, a priori, à l'extérieur, Antonelli a essayé de prendre Norris, mais ça n'est pas passé. Il a dû court-circuiter la chicane. Il va devoir rendre la position. C'est Lando Norris qui va se retrouver devant. Voilà qui est fait maintenant après le virage numéro 3. Donc, Lando Norris récupère la pole avec un Verstappen extrêmement agressif, je l'ai dit, avec les pneumatiques les plus tendres. Et puis, il tente à nouveau une attaque, Antonelli. Ça ne passe pas dans les virages 5 et 6. Il doit laisser repasser Norris à nouveau, puisqu'il a utilisé l'extérieur de la piste et toujours Norris. Donc, le poleman surprise de ce Grand Prix d'Espagne ici. Le retour donc à Madrid depuis 81, le dernier vainqueur, c'était Jacques Lafitte, évidemment, il y a 45 ans maintenant, sur le tracé de Jarama. Pour le moment, Lando Norris et pas de friction derrière. Eh bien, ça a été chaud, mais c'est bien passé avec Lando Norris, donc qui va boucler normalement ce premier tour au commandant. Verstappen est parvenu à se glisser au deuxième rang au détriment d'Antonelli en exploitant ses pneumatiques soft. Donc, on a quatre voitures, quatre pilotes, quatre écuries aux quatre premières places. Norris, la McLaren, Verstappen, la Red Bull, Antonelli, la Mercedes, et puis derrière les Ferrari d'Hamilton et Leclerc devant Russell, Colapinto et Lawson du côté des Français. Ocon est pour le moment 11e et Gasly 13e.
Voilà, bah c'est bien ça, la concurrence entre toutes ces écuries. Quatre voitures, quatre écuries différentes aux quatre premières places de ce Grand Prix. Et la bagarre ne fait sans doute que commencer sur ce circuit de Madrid. On revient vers toi dans un instant. Mais on repart tout de suite à Lille. Il y avait incertitude sur le but lillois inscrit très rapidement. Et l'incertitude finalement fait qu'on est revenu à 0-0, Kevin.
Ouais, c'était très bizarre parce que le jeu avait quasiment repris. Enfin, il me semblait en tout cas du côté de Pierre Mauroy. Et finalement, l'arbitre a consulté donc avec l'aide de son assistant vidéo. Et donc, il y avait hors-jeu d'Haraldsson au départ, au moment de la frappe de Bakwa qui a été repoussée par le poteau. Ça se joue vraiment à pas grand-chose. Mais avec la ligne du 5m50, on voit clairement que l'Islandais était en effet hors-jeu. Donc, on est de nouveau à 0-0 après 7 minutes de jeu à Pierre Mauroy entre Lille et Troyes.
Ouais, Charlotte, but
refusé. Ça
s'est
refusé. Vraiment pas, quelques pas centimètres. Hein. Il avait fait l'effort, là, Haraldsson. Et finalement, voilà, c'était une position d'hors-jeu, effectivement. J'ai hâte de voir un petit peu les Lillois avec Dylan Bakwa, sa titularisation, avec aussi, on le rappelle, Nabil Bentaleb, qui était sorti à la mi-temps contre le Betis, parce qu'il avait, il avait des petits soucis au niveau de la vue. Donc, Benjamin André qui a été décidé d'être remplacé. Avec Ethan Mbappé, évidemment, qui a pris son rouge et qui est quand même dans le groupe. Donc, on va voir comment les Lillois vont pouvoir réagir à ce moment-là. Mais les Troyens, j'y crois. Hein. Les Troyens, franchement, je les aime beaucoup dans ce début de saison. Mais c'est vrai que là, ils vont devoir réagir un peu.
La semaine dernière, ils avaient fait un très bon début de match face à Strasbourg. Et puis ensuite, ils ont complètement coulé. Hein.
Ouais, ils avaient fait 6-2.
Physiquement, c'était cuit. 6-2,
score de tennis, ouais.
Et ils avaient accroché les Parisiens du Paris FC lors de la première journée, 0-0. On voit que voilà, les Parisiens font un excellent début de saison après. Donc ça montre aussi la qualité de ce promu troyen qui, on le rappelle, fait partie du City Group et qui a donc quelques passerelles grâce à ça, avec Bentaleb là, qui remet ce ballon sur le gardien Berkehauser, 8 minutes de jeu, 0-0, on le rappelle, après ce but annulé d'Haraldsson. Et le ballon dans la défense lilloise avec N'Goy et maintenant Alexandro Perrault sur le côté droit avec sa coupe peroxydée qui ressemble un peu à Haraldsson. Romain Perrault avec donc de nouveau la défense centrale lilloise qui a le ballon. Charlotte, on voit les Lillois quand même qui ont le monopole du ballon, évidemment, pour ce début de match, ces 10 premières minutes du côté de Pierre Mauroy face à ce promu troyen.
Oui, parce que les Troyens, pour le moment, le pressing, ils n'en mettent pas forcément beaucoup. Ils veulent que justement les Lillois fassent des passes un petit peu latérales, ne mettent pas d'intensité. Mais attention aux Troyens de laisser trop le ballon aux Lillois. Mais c'est vrai qu'après, on le rappelle, hein, ils ont gagné contre Lorient aussi, les Troyens. Lorient qui a gagné contre Lens. Donc c'est vrai que ce début de championnat, tout le monde peut gagner un peu contre tout le monde.
Ok, on en est donc toujours à 0-0 entre Lille et Troyes. On vous rappelle que le but lillois inscrit très rapidement dans ce match a été invalidé par l'arbitre. Donc 0-0. Pour le moment, entre les deux équipes, après 9 minutes de jeu, avant de repartir dans un instant à Madrid, nous allons faire un tour du côté de Berlin, où l'événement aura lieu ce soir, la finale de la Coupe du Monde de basket féminin entre la France et les États-Unis. 2 ans après la finale olympique qui avait déjà opposé ces deux équipes et qui avait vu les États-Unis décrocher une nouvelle médaille d'or pour un tout petit point seulement, eh bien les Françaises vont tenter de renverser ces Américaines. On va suivre ce match avec Félix Gabory, notre envoyé spécial à Berlin. Salut Félix.
Salut Christophe, salut Charlotte, salut tout le monde.
Bon, aux Lakers, tout le monde y croit, hein. On l'a entendu tout à l'heure dans le Stephen Brunch. Il y a quand même une espèce de hype autour de cette équipe de France féminine. Beaucoup d'ambition, beaucoup d'optimisme. Pourtant, c'est quand même une équipe face à l'équipe de France qui est invaincue depuis des années, qui a tout raflé, qui domine de la tête et des épaules. Mais pourquoi cet espoir d'un seul coup pour l'équipe de France?
Ah, elles dominent tellement ces Américaines que ça fait 20 ans qu'elles n'ont pas perdu en compétition internationale. Leur dernière défaite, c'était à la Coupe du Monde 2006. Tu te rends compte quand même, Christophe, c'est une éternité, une telle domination sur le basket mondial. Mais les Françaises, il y a un petit optimisme qui pointe le bout de son nez, parce qu'en fait, on n'a jamais été aussi proche de ces Américaines. Avant, on en parlait aussi dans les GG du sport ce matin. Quand on arrivait en finale, on se contentait de la médaille d'argent, ouais, en se disant, bon, c'est les Américaines, c'est un autre sport. Nous, on a gagné la compétition des autres nations, entre guillemets. Mais là, vraiment, il n'y a pas du tout ce sentiment, cet état d'esprit. Les Bleus sont ultra ambitieux, je l'ai dit. Elles se sentent plus proches que jamais de ces Américaines. Il y a 2 ans, en finale des JO de Paris, ça s'était joué à quelques centimètres pour aller en prolongation sur ce shoot de la capitaine, celle qui est devenue capitaine maintenant, Gabby Williams, qui avait mis un tir au buzzer. Mmh. Et pour quelques centimètres...
Trop grande chaussure.
Bah, c'est ça en fait, je pense que si elle avait fait comme moi du 40, du 41, ça passait à quelques centimètres près. Mais voilà, 2 ans après, il y a quand même ce sentiment de revanche et ce sentiment que on peut le faire vraiment contre ces Américaines qui ont un petit peu galéré sur certains matchs dans cette Coupe du Monde. Il y a eu la demi-finale hier soir contre l'Espagne où ça s'est décidé dans le 4e quart-temps, ça a été très serré pendant 3 quart-temps. Elles se sont fait aussi accrocher un petit peu en poule où elles ont gagné dans les dernières minutes contre l'Italie. Alors que les Françaises, Christophe, depuis le début de la compétition, elles sont en mode rouleau compresseur. Elles mettent 20, 30, voire 40 points à tout le monde. En phase de poule, l'écart moyen, c'était 40 points. Hier soir encore, pour la demi-finale, en Allemagne, elles ont climatisé la Berlin Arena en gagnant d'une vingtaine de points. Il y a vraiment une force qui émane de cette équipe de France. Et oui, on peut vraiment y croire plus que jamais pour aller chercher ce qui serait tout simplement le premier titre d'une équipe de France, masculine comme féminine confondue, dans une Coupe du Monde. Ça serait, voilà, ça peut marquer l'histoire, ouais, du basket français, du sport français en général, même ce soir.
Ouais, Charlotte.
Mais est-ce qu'aujourd'hui, j'ai une question, est-ce qu'aujourd'hui elles vont l'aborder en mode winneuse, qu'elles peuvent enfin gagner, qu'il n'y a pas ce complexe d'infériorité qu'il y a eu depuis tellement d'années? Est-ce qu'elles vont l'aborder en mode on peut gagner parce que cette équipe des États-Unis, on est tellement proche et qu'on a une défense très très solide?
C'est vraiment, oui, Charles, ce qui transpire de toutes les interviews d'après-match. Même là, avec l'euphorie de la victoire en demi-finale et de la qualification en finale, il y avait cet aspect chez les Bleus que c'était qu'une étape et que vraiment ce qu'elles visaient, c'était le titre. C'est l'objectif ultime et elles se contentent absolument pas de ça. Et on parlait un petit peu de complexe d'infériorité, ça n'existe plus parce que 8 joueuses sur 12 de cette équipe de France évoluent en WNBA.
Ah oui,
c'est
très bien.
Donc voilà, elles jouent contre les Américaines, contre les stars américaines toute l'année. Et certaines de nos Françaises font, ouais, elles-mêmes partie des stars de la WNBA. On a parlé de Gabby Williams, il y a aussi évidemment la magicienne Marine Joannès, et aussi Dominique Malonga, la relève, la jeune française, la jeune pivot française. Voilà, on domine aussi en WNBA, donc il n'y a pas de raison qu'on ne, ouais, regarde pas ces Américaines droit dans les yeux comme on le fait toute l'année.
Notre capitaine Gabby Williams, elle aurait sa place dans l'équipe des États-Unis, Félix?
Évidemment. Elle fait partie des meilleures joueuses du monde. Pour te donner une idée, Christophe, elle est All-Star. Ouais. En WNBA. Donc cette année, elle a participé au match de gala en WNBA qui regroupe les meilleures joueuses de toute la ligue. Donc elle fait partie de ce gratin-là. Si l'équipe de France gagne cette Coupe du Monde, il y a quasiment aucun doute qu'elle soit élue MVP, donc meilleure joueuse de cette Coupe du Monde. Elle est vraiment dans une forme étincelante, que ça soit aussi bien en attaque où c'est une des leaders offensives des Bleus, c'est la meilleure marqueuse, mais aussi en défense où c'est une des meilleures défenseuses du monde. Voilà, Gabby Williams, oui, pour répondre à ta question, il y a de fortes chances qu'elle soit dans cette équipe américaine, et je pense même qu'elle pourrait être sans aucun problème dans le 5 majeur de cette équipe des États-Unis. Donc voilà, c'est pour dire un petit peu le niveau de notre équipe de France.
Ouais, on rappelle que Gabby Williams est née aux États-Unis, qu'elle vit aux États-Unis, mais qu'elle est française.
Elle est franco-américaine, oui.
Et franco-américaine, et donc ouais, même capitaine de cette équipe. Donc on verra ça tout à l'heure, 20h. Donc surtout pas faire de complexe face à cette équipe américaine. Et ça pourrait le faire on l'espère en tous les cas. Soirée spéciale sur RMC ce soir à vivre autour de Georges Quirino et tous nos envoyés spéciaux pour vous faire vivre cette finale de la Coupe du Monde, 20h. Merci Félix, à tout à l'heure. On reviendra un petit peu sur les enjeux et sur les forces des Françaises tout à l'heure vers 16h. En attendant, on va faire le tour de nos directs. On va commencer par la Formule 1. Nous sommes dans le 7e des 57 tours. Est-ce qu'il y a du changement à annoncer, Jean-Luc ?
Oui, il y en a beaucoup, Christophe, puisque le leader, eh bien, c'est Norris. Il précède maintenant Antonelli au deuxième rang qui a 4 secondes de retard dans ce 7e tour, comme tu le disais. Verstappen a repris la 3e position devant Charles Leclerc. Russell est 5e, mais celui qui a eu des gros problèmes, c'est Hamilton. On l'a entendu à la radio signaler à l'ingénieur qu'il avait frôlé le mur. Et puis, 2 tours plus tard, il a commencé à avoir des problèmes de frein. Donc, il a dû rallonger ses distances de freinage. Il a dû laisser passer ceux qui étaient derrière lui. Et Lewis Hamilton est maintenant en perdition. Il a même quitté le circuit et le voilà arrêté au stand. Donc, a priori, un abandon, je pense, pour Lewis Hamilton. Après 7 tours maintenant, on a donc au commandement, eh bien, Norris, le poleman avec la McLaren, 4 secondes d'avance sur Antonelli, la Mercedes. 3e, Verstappen avec la Red Bull. Puis l'autre, Ferrari de Leclerc, Russell est 5e. Derrière, au niveau des Français, eh bien, Ocon est 10e et Gasly 12e.
Très bien, donc abandon, on le rappelle, de Lewis Hamilton, le pilote Ferrari qui n'ira pas au bout de ce Grand Prix d'Espagne. On le disait, ce circuit très très dur pour les mécaniques, et il ne devrait pas être le seul à devoir abandonner dans ce Grand Prix. Nous repartons également à Lille, le stade Pierre Mauroy, pour ce match entre Lille et Troyes avec Kevin Morand. 0-0 toujours, Kevin.
La 17e minute de jeu à Pierre Mauroy est toujours 0-0. En effet, attention quand même à ce ballon, à l'approche de la surface de réparation nordiste avec le jeu direct des Troyens depuis ce début de match. On cherche beaucoup Jérémy Ledouaron, le joueur prêté, l'attaquant, mais toujours 0-0 donc entre le LOSC et Troyes ici à Pierre Mauroy.
Charlotte, un mot de ce premier quart d'heure, domination lilloise,
petite
logique,
domination des Lillois. Troyes essaye de garder le ballon, mais c'est vrai qu'il y a une qualité technique qui est intéressante du côté de Lille. Donc c'est vrai que Ledouaron, sa première titularisation, on attend beaucoup de lui, hein, du côté de Troyes aussi. J'aime beaucoup Hugo Picard qu'on découvre dans cette Ligue 1, qui est très véloce, qui est un joueur qui a beaucoup d'explosivité, qui est très intéressant. Et puis Lille, j'aime beaucoup aussi Haraldsson qui est pour moi l'homme fort de cette équipe de Lille. Mais les Troyens tiennent. Après, Lille a le ballon un petit peu stérile, par contre, je trouve, Kevin.
Allez, 15h17, on revient dans un instant. 0-0 entre Lille et Troyes. Norris au commandement du Grand Prix d'Espagne de Formule 1. Et l'Intégral Sport revient dans un instant.
RMC Intégral Sport.
Christophe Cécile. Et on repart tout de suite à Lille. L'ouverture de score pour le LOSC. Kevin, cette fois-ci, il est accordé.
Ouais, cette fois-ci, il n'y a pas de doute. C'est un bijou de la part de Thiago Santos, le latéral droit de cette équipe du LOSC. La passe décisive de Dylan Bakou à Charlotte. On en parlait en début de match. On avait envie de voir ce que donnait la première titularisation de ce joueur au milieu de terrain. Et donc, il a servi à l'angle de la surface de réparation. Thiago Santos, la frappe du pied droit de Santos qui vient se loger juste à l'entrée de la lucarne. Ça fait 1-0 pour le LOSC face à 3 après 20 minutes de jeu.
Nettoyer.
Ah ouais, il n'y a plus de toile d'araignée, là, c'est fini. Là. Elles sont
buteur
parties,
contre Angers, il a une position très haute, hein, Thiago Santos, qui était pas mal blessé la saison passée. Et là, vraiment, il prend de l'ampleur très rapide sur le côté. Il se propose la connexion avec Dylan Bakoua. Je pense qu'elle peut être très intéressante parce que Dylan Bakoua est gaucher, comme Ethan Mbappé, évidemment, mais il va rentrer beaucoup en intérieur. Mais Thiago Santos, ça fait je sais pas combien de fois qu'il tente à chaque match, il prend ses responsabilités et il est énormément en confiance.
Voilà, donc qui permet à Lille pour l'instant de rejoindre qui ? De rejoindre, attention,
et 2-0, ouais. Ça fait 2-0. Ah ben voilà. On a le ballon dans la surface de réparation troyenne et le but contre son camp, il me semble, de Karim ou de Monfray du côté. Il y aura hors-jeu. Il y aura hors-jeu de la part au début de l'action de Onal, donc. Mais ah ouais, c'était un centre là venu de Haraldsson, encore une fois, il me semble, ou de Bentaleb. Bentaleb qui a passé par-dessus la surface de la défense troyenne pour mettre ce ballon vers Eunal, et donc le défenseur qui était venu mettre ce ballon au fond. Il y aura donc une position de hors-jeu. On va en rester à 1-0 après 21 minutes de jeu ici à Pierre Mauroy face à 3.
Ouais, c'est Junior Diaz qui a marqué contre son camp, mais vraiment l'alignement, heureusement que les Troyens sont bien remontés, parce qu'effectivement il est en position de hors-jeu.
Donc
encore à la limite.
Ah ouais, à chaque fois, ouais. Il pourrait mener 3-0, bah, il mène qu'un zéro finalement les Lillois, mais ça leur permet pour l'instant eh bien de revenir à hauteur de Monaco et de Rennes et d'être donc co-leader de cette Ligue 1. Mais on sent quand même qu'il y a une nette supériorité lilloise sur l'adversaire du jour, cette équipe de l'Estac. 15h21, direction Longchamp, c'est l'heure du quintet, c'est avec Fred Kita. Salut Fred.
Salut Christophe, salut à tous. Effectivement, avec une belle lutte finale entre les deux favoris de cette compétition, mais c'est le numéro 12 Aminako qui va finalement conserver la mesure du numéro 4 Big Lock. Donc le numéro 12 Aminako s'impose, c'était le favori en cote finale à 4,10€ devant le numéro 4 Big Lock, lui était proposé à 5,60€. Ensuite c'est le numéro 10 Nitti Galeste qui va compléter le podium devant le numéro 14 Just Jim, et enfin la cinquième place pour le numéro 7 Colgan Senora. Je récapitule l'arrivée provisoire de ce quintet plus en quinté plus pardon en chiffres 12, 4, 10, 14 et 7.
Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Merci Fred. Il est 15h22. Allez, on repart à Madrid sur ce nouveau circuit du Grand Prix d'Espagne avec pour l'instant avantage au poleman. Norris qui a surpris tout le monde hier en réalisant le meilleur temps lors des qualifs et qui la confirme qu'il est revenu en très grande forme avec sa McLaren, Jean-Luc.
Parfaitement la situation, évidemment quand on est devant, eh bien on bénéficie de l'air frais, de l'air propre, hein. Pas de turbulence, pas d'air sale comme on dit, et donc avec sa monte automatique médium qui était le choix logique, eh bien il a creusé l'écart, près de 6 secondes maintenant d'avance sur la Mercedes de Kimi Antonelli. Je rappelle que Antonelli était à ses côtés au moment du départ. Ils sont équipés du même type de pneumatique, c'est important parce que on devrait les voir s'arrêter normalement d'ici 5 à 10 tours maintenant d'après les prévisions de Pirelli. Derrière, eh bien, on a Verstappen qui a connu lui des mésaventures puisqu'il a failli être percuté par Lewis Hamilton dans le premier freinage. Ensuite, on lui a reproché justement d'avoir gagné de la place. Son ingénieur l'a dit, tu dois rendre les places. Alors il était horrifié, mais il l'a fait. Il a rendu les deux positions et puis on a su après que Hamilton avait des problèmes de frein, donc qu'ils l'ont éliminé. Donc pour le moment, eh bien, on a Norris, la McLaren, avec près de 6 secondes maintenant d'avance sur Antonelli, la Mercedes, et puis Verstappen, mais lui est en pneumatique soft, les plus tendres. Ça va être le premier à s'arrêter normalement. Et puis derrière, un bataillon de pneus durs emmené par la Ferrari de Charles Leclerc, la Mercedes de Russell et puis Liam Lawson qui fait un super boulot. Il est sixième pour le moment avec l'autre Red Bull devant Colapinto qui a fait un peu le bouchon pour le moment, Lindblad, Piastri et Ocon dixième. Il est dans les points le français.
Donc ça veut dire que Leclerc et Russell qui sont en pneus durs ne vont pas s'arrêter eux et vont donc pouvoir continuer beaucoup plus longtemps que Verstappen.
C'est exactement ça, d'après les planifications, mais tu sais que c'est une nouvelle piste, hein, on l'a signalé d'entrée, donc on ne connaît pas exactement le niveau d'abrasion. Il fait très chaud, hein. Il fait 31 degrés dans l'air et 54 degrés sur la piste, mais a priori pas de dégradation d'après ce que disent les pilotes, donc on pourrait aller jusqu'au 36-38e tour avec les pneus durs, et je l'ai signalé tout à l'heure, et bien d'ici 5 tours maintenant, ceux qui sont équipés de pneus soft devraient repasser par la voie des stands. Ouais. Si les performances baissent, on va surveiller Verstappen.
J'entendais Ocon hier qui disait que sur ce circuit tout neuf, le grip était excellent. Ça veut dire quoi ? Est-ce que c'est plus usant pour les pneumatiques, Jean-Luc ?
Et non, a priori c'est très bon, au contraire, puisque les pneumatiques travaillent très bien. On sait que la fenêtre de fonctionnement de ces pneumatiques est extrêmement étroite, hein. C'est de l'ordre de 3 à 5 degrés, pas plus, aux alentours de 110 degrés. Donc il faut porter les pneumatiques à 110 degrés et tenter de les maintenir. Et c'est ce que les pilotes font. A priori, non, pour le moment, on n'entend pas parler de dégradation, alors que Fernando Alonso vient d'avoir un petit problème. Là, effectivement, au milieu du paquet, c'est Carlos Sainz aussi qui s'était montré un peu rugueux tout à l'heure par rapport à Tsunoda au moment du départ. Carlos Sainz actuellement 17e, Alonso 18 et Tsunoda 16e. Voilà le paquet.
Jean-Luc, les revêtements comme ça sur un circuit tout neuf comme celui de Madrid, c'est avec des revêtements nouveaux ou c'est la même chose qu'on retrouve sur tous les circuits?
Ah non, ce sont des revêtements nouveaux, bien sûr, surtout que ce circuit, en fait, a deux parties. Une partie qui est permanente, qui restera donc telle qu'elle est là, une partie qui utilise des routes, entre guillemets, normales. C'est l'IFEMA, hein. C'est un centre d'exposition à côté de Madrid. D'ailleurs, il y a de grands bâtiments dans lesquels les écuries sont installées, qui jouxtent la piste. L'autre problème qu'il y a, c'est qu'il y a un pavillon qui est au milieu de la voie des stands, et donc, évidemment, c'est très long, hein, pour s'arrêter et changer de pneumatique. Ça prend 25 secondes ici en conditions normales et 13 secondes s'il y a un safety car ou un virtuel safety car.
Parfait, on a tout compris. Vous êtes parfait, monsieur Roy. À tout à l'heure.
J'essaie.
Norris donc devant Antonelli, Verstappen et Leclerc. On rappelle qu'Hamilton a dû abandonner. Et les Lillois, eux, qui continuent de pousser. Kevin face
J'ai
à
entendu
trois.
Ton petit ou, Christophe.
Pardon ?
J'ai entendu ton petit ou, c'est peut-être Charlotte.
Non, c'est Christophe.
Moi, j'ai un petit ou comme ça, un petit ou très, très haut, tu vois.
Oui, ce ballon, le long ballon de Ben Taleb pour servir Ueda à l'entrée de la surface. Il n'a pas pu bien la reprendre, en tout cas cadrer Ueda derrière pour marquer ce deuxième but côté Lillois. On est toujours donc à 1-0 après 27 minutes de jeu, mais ouais, ça se, le danger se, ça rapproche pour les Troyens, pour que le break Lillois eh bien intervienne, même si les Troyens ont eu quelques occasions là. Ils ont eu un corner tout à l'heure et un coup franc, mais ils l'ont pas mis à profit pour cadrer. Il va falloir justement mieux mettre à profit du côté de l'Estac ces occasions, parce qu'elles vont pas se multiplier de s'approcher de la cage de Berkeozer, Charlotte, puisqu'on voit hein, les Troyens qui sont largement dominés dans la possession sur ces 27 premières minutes.
Oui, il y a eu quelques changements hein, du côté de Troyes avec le coach Dumont. On a mis Diawara, on a mis le Doiron aussi, et pour essayer d'être un petit peu plus dangereux, parce que c'est vrai que les Troyens, même si ils ont trouvé une certaine efficacité pour exister offensivement dans le jeu contre des belles équipes contre Lille, il faut peut-être un peu plus de mobilité devant. C'est ce qui manque un petit peu à Troyes, mais par contre il y a des joueurs qui aiment jouer au ballon hein. Antoine Mille au milieu de terrain, très intéressant. Hugo Picard, j'en ai parlé, mais c'est vrai que les Lillois ils prennent le jeu tranquillement à leur compte avec leur domination technique et puis physique. J'aime beaucoup aussi la mobilité de Ueda, le japonais qu'on découvre, qui a un profil intéressant, un peu atypique comme Olivier Giroud. On rappelle que c'est l'un des joueurs qui a la meilleure détente, Ueda. Il n'est pas immense non plus, mais il a une super détente. C'est un joueur qui marque beaucoup de la tête. Donc ça fait partie de David Ancelotti. Ce qu'il a envie aussi, c'est de peser devant les défenses des équipes de Ligue 1.
On rappelle que Brest recevra le Paris Saint-Germain ce soir, mais que le leader sera soit Lille, soit Monaco, soit Rennes, parce que Paris a pas bien débuté cette saison. Quelle est l'équipe qui t'a fait la meilleure impression jusque-là, Charlotte, dans ce début de saison ?
Bah moi j'aime bien Monaco. Je trouve que la saison passée, comme il y avait des difficultés derrière qui prenaient un peu l'eau, qui a eu le départ d'Akliouche notamment, qu'on savait pas si Lamine Camara allait rester, si Golovin allait rester. C'est vrai qu'il y a eu aussi Philippe Luis, l'arrivée de Philippe Luis qui était très attendue. Je les trouve très bons avec Paris Brunner qui est très intéressant. Pour moi c'est vraiment un des joueurs à suivre. Donc je dirais une petite pièce sur Monaco.
Corner pour les Troyens, justement, on en parlait.
Une pièce sur Rennes, mais bon, on va pas en parler comme ça.
Absolument. Le corner à la demi-heure de jeu pour Picard, de la gauche vers la droite, la tête de Ben Taleb de second poteau pour redégager, mais ça va revenir avec Monfray qui remet ce ballon dans la surface. Ça va sortir en touche. La touche, elle sera troyenne, toujours dans la partie de terrain lilloise. On est quand même très proche de la surface de réparation. Peut-être une longue touche à venir de Marronnier, le latéral droit de cette équipe troyenne. Et oui, les Marronniers, on les connaît. Les journalistes, c'est notre spécialité. Le ballon remis derrière sur Diop ou Diawara plutôt, pour Diop justement à l'angle de cette surface de réparation. Le centre à venir de Marronnier au niveau du premier poteau, et c'est encore Ben Taleb qui est là pour dégager. Le duel aérien entre Monfray et Perrault pour dégager ce ballon. Le ballon récupéré par les Lillois, Ralston qui tente de ressortir proprement et qui est là mis à la faute les Troyens. Ça va faire un coup franc pour les Lillois pour se dégager. La demi-heure de jeu à Pierre-Mauroy, 1-0 pour Lille, on le rappelle, depuis le but de Thiago Santos à la 18e face à 3.
15h30 sur RMC, la demi-heure de jeu, donc un but à 0 pour Lille. Et puis les premiers changements de pneumatique dans le Grand Prix d'Espagne de Formule 1, avec un nouveau leader. C'est un Monégasque qu'on connaît bien, Charles Leclerc, qui est leader pour le moment. Ça va peut-être pas durer, Jean-Luc.
Oui, absolument, Christophe. Ce qui s'est produit, c'est la sortie de piste de Lance Stroll, qui a percuté donc le mur avec son Aston Martin. Il avait des problèmes de frein depuis quelques tours. Il en parlait à son ingénieur. Évidemment, ça a occasionné d'abord un drapeau jaune et après un virtuel safety car. Et les pilotes en ont profité pour faire irruption dans les stands. Alors, la première vague, ça a été Antonelli, donc avec la Mercedes qui était deuxième. Verstappen, suivi de Verstappen et Russell. On a monté des pneus durs pour Antonelli, des pneus durs pour Verstappen et des pneus médiums pour Russell. Bien sûr, puisqu'il était parti, lui, avec des pneus durs. Et puis, on a arrêté naturellement au tour suivant. On a arrêté Lando Norris. On vient de lui monter les pneus durs, mais avec un tour de retard par rapport à ses adversaires. Et celui bien qui sûr. Ne ne s'est pas arrêté, tu viens de le signaler, eh bien, c'est le monégasque Charles Leclerc avec la Ferrari qui, lui, était équipé de pneumatiques durs.
Mais il va donc devoir s'arrêter lui aussi.
Et il va s'arrêter, mais plus tard, puisqu'il a les pneus durs, lui.
Ouais, ok.
Et oui. Donc, il profite de l'avantage et pour le moment, eh bien, c'est lui qui va mener la meute. Alors, naturellement, ses pneumatiques sont un petit peu plus fatigués que ceux de ses adversaires directs, puisqu'on a Leclerc, je le répète, leader avec la Ferrari. Il ne s'est pas arrêté, il était parti cinquième et il réalise un excellent tour. Derrière, Antonelli, dont la Mercedes est équipée de pneumatiques durs, mais tout neuf, donc il va aller très vite. Ça va être le cas de Verstappen, qui était, je le répète, parti avec des pneumatiques les plus tendres. Il vient de monter les plus durs, donc a priori, on ira au bout. Verstappen, troisième. Et puis Russell, parti lui en pneus durs. Je sais que c'est toujours un peu compliqué, ces histoires de pneus, mais ça explique les résultats et ça explique les performances. Russell avec des médiums, donc a priori, en température, il devrait être un peu plus rapide pour le moment, Russell. Et puis Norris, le leader, qui se retrouve seulement cinquième. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il s'est arrêté un tour plus tard que ses adversaires directs.
Plus ils sont durs, moins ils sont performants, les pneus. En tous les cas, ils tiennent plus longtemps, mais ils vont moins vite. On a bien compris. C'est un peu l'histoire. Et Antonelli qui revient comme une fusée derrière Leclerc. Attention, l'Italien qui a été impressionnant la semaine dernière à Monza avec cette remontée incroyable, partie de la 19e position et qui remporte le Grand Prix s'il s'impose à nouveau aujourd'hui. Je pense que le titre sera de plus en plus dans sa poche. Donc 17 des 57 tours couverts. Leclerc en tête devant Antonelli, Verstappen et Russell. Et puis 33 minutes de jeu à Pierre-Mauroy. 1 but à 0 pour le LOSC face à 3. Il est 15h33. On vient dans un instant.
RMC Intégral Sport.
Christophe Cessieux.
15h34 sur RMC, le foot et la Formule 1 au programme en ce début d'après-midi, mais il n'y aura pas que ça tout au long de la journée, je vous rappelle. 20h, la finale de la Coupe du Monde de basket, l'équipe de France féminine affronte les États-Unis à suivre sur RMC. Il y aura également la finale de l'US Open entre Shelton et Zverev. Il y aura également un match incroyable de rugby entre Toulouse et l'UBB. Il y aura quoi ? Il y aura plein d'autres choses. Il y aura également le PSG qui se déplace sur la pelouse de Brest. Tu vas regarder quoi, Charlotte ? Tu vas écouter quoi ce soir ? Tu sais que sur RMC, tu auras tout.
Mais c'est ça.
Tu auras tout écouté en même temps, quoi.
Bah, il faut écouter RMC, déjà. C'est la première information.
Avec ton copain, Georges Chirino, en plus.
Exactement. Le meilleur, Georges. Ah. Oui, là, faut tout regarder. Les joueuses françaises du basket, on a envie de les voir rapporter cette médaille contre presque aux favorites, même si les françaises sont favorites. Mais c'est vrai que je mets une petite pièce en plus sur les françaises, quand même, du côté de basket.
Une petite pièce sur les françaises, oui. C'est ton cœur d'international français qui parle.
Exactement. Hein, j'ai joué au basket un peu. Hein. Mais un an, juste l'entraînement.
Tu t'es rendu compte que tu n'étais pas assez grande.
Bah, exactement. 1m65, c'est un peu.
Tu sais, les meneuses, elles ne sont pas toutes très, très grandes. Enfin, tu n'aurais pas pu jouer dans l'équipe chinoise de basket. Elles sont immenses. Il y en a une qui fait 2m23. T'imagines le truc. Allez, le foot, on y retourne tout de suite. Kevin Morand, il est grand, lui, il aurait pu être basketteur. Il a choisi d'être footballeur, supporter de Rennes et du cyclisme. Il est donc pour ce match au commentaire de ce Lille 3. Et pour l'instant, c'est un match agréable, Kevin.
Ah ouais, avec un corner à venir pour les Troyens, la tête. Le ballon mis en corner par Thiago Santos sur un centre venu d'Antoine Mill, ce joueur qui a été l'un des grands artisans de la montée de l'Estac la saison dernière au milieu de terrain, l'un des meilleurs joueurs de Ligue 2. Et donc le corner à venir de la gauche vers la droite pour Hugo Picard, qu'on voit très remuant. Charlotte, tu en parlais de ce joueur qui est passé par Guingamp et qui est allé la saison dernière en MLS du côté de Columbus pour voir autre chose, et puis qui est revenu en Ligue 1 avec le promu troyen. Picard justement pour ce corner, le pied droit, ce sera de nouveau vers le second poteau. Et de nouveau Ben Taleb qui va pouvoir dégager les Lillois, mais ça va revenir puisque le ballon est toujours en possession de l'Estac avec Marronnier, Derman Karim qui centre de nouveau, et cette fois c'est Alexandro qui va pouvoir mettre sa tête, mais ça va encore revenir avec Diaz qui oriente le jeu côté droit, côté troyen, et le ballon mis en touche par Perrault pour donc la remise en jeu à venir pour l'Estac. 1-0 pour le LOSC face à 3, 38e minute de jeu, et là les Troyens qui vont passer par leur défense au niveau de la ligne médiane pour essayer de reconstruire une action, mais on voit qu'ils ont quelques occasions quand même de s'approcher du but de Berkehauser, et qu'ils sont vaillants quand même ces Troyens, notamment sur ce côté gauche avec de nouveau Picard qui a le ballon et qui va repasser derrière Charlotte. Ouais, Picard vraiment c'est le maître à jouer de cette équipe, on sent que c'est lui qui a la maîtrise technique du côté du jeu de l'Estac.
Oui, il est très très libre, très remuant, petit gabarit, beaucoup de prise d'information, les Troyens qui montrent de la personnalité, hein, parce qu'on le rappelle que contre Strasbourg, ça a été extrêmement, ils étaient en difficulté. Donc là, contre Lille aussi, il va avoir peut-être une fraîcheur physique à un moment donné pour les Troyens. Ils n'ont pas joué cette semaine. Et puis les Lillois qui ont beaucoup donné parce qu'à 10 contre 11, assez rapidement en seconde période, ils ont laissé un peu des plumes. Mais les Troyens, je trouve qu'ils ont du caractère. Ils montrent des choses aussi.
Ils montrent des choses, mais pour l'instant, ils sont dominés. Et ils sont menés au score donc par Lille après 38 minutes. 1-0 pour les Lillois. Retour à Madrid pour le Grand Prix d'Espagne de Formule 1 sur ce nouveau circuit. Et c'est donc la Ferrari de Leclerc qui est en tête de ce Grand Prix. Il n'y a pas une grosse marge sur Antonelli. Est-ce qu'on peut doubler sur ce nouveau circuit de Madrid, Jean-Luc? Pas eu beaucoup de gens doublés pour l'instant. Hein.
Alors non, c'est très difficile. Effectivement, Christophe, c'est un circuit en ville, hein, on le rappelait, donc bordé de murs et de grillages. Donc le moindre écart de trajectoire coûte évidemment très cher. Il y a un ou deux endroits au bout des lignes droites, évidemment, où on peut freiner. Mais Verstappen émettait justement un commentaire à ce sujet. Après les essais, il disait le problème, c'est que ce tracé, il y a beaucoup de freinage en courbe. Donc on est obligé de freiner, de tourner le volant en même temps. Et ce sont des endroits où, avec une Formule 1 telle qu'elles sont aujourd'hui, c'est très difficile de dépasser parce qu'il n'y a qu'une seule trajectoire. Et si on se met légèrement en dehors de la trajectoire qui est chargée de gomme et qui a bien sûr qui procure la meilleure adhérence, eh bien on risque justement de sortir de la piste et de heurter le mur. Donc c'est très délicat, oui, tu as raison. Alors là, on a une bataille stratégique intéressante parce que, tu l'as dit, nous sommes dans le 21e des 57 tours de ce Grand Prix. Et stratégiquement, eh bien Leclerc, qui est au commandement avec ses pneumatiques dures, tourne dans le même rythme que les quatre pilotes derrière lui qui, eux, ont changé de pneus. Ah. Donc pour le moment, il n'y a pas d'avantage pneumatique. Ça va certainement venir.
Même si ces pneus sont plus vieux, pour l'instant, ils ne souffrent pas par rapport à la concurrence.
C'est exactement ça, et ça corrobore ce qu'on expliquait tout à l'heure. Tu me posais des questions sur le revêtement. Eh bien, les pilotes louent le revêtement. Il y a quelques bosses déjà sur ce tracé, mais c'est tout ce qu'ils peuvent lui reprocher. En termes d'adhérence, c'est excellent. C'est un revêtement assez sombre, hein. Je répète qu'il fait très chaud, hein. 31 degrés dans l'air et 54 degrés sur la piste. Mais apparemment, pour le moment, eh bien, les pneumatiques dures se comportent très très bien. Et Charles Leclerc en est la parfaite illustration, puisqu'il a franchi le premier tiers de ce Grand Prix. Je répète que d'après les projections de Pirelli, hein, le fournisseur de pneumatiques, il pourrait tenir jusqu'au 36e, voire même 40e tour, ce qui lui permettrait peut-être de monter des pneumatiques les plus tendres sur la fin. Et on aurait donc une fin de Grand Prix à suspense, vraiment, alors que, évidemment, a priori, du côté d'Antonelli et de Verstappen, notamment derrière, on a monté les pneus durs il y a 7 tours maintenant, et on ne devrait pas repasser par la voie des stands. Hein. Faudra aller jusqu'au bout de ce Grand Prix. Et puis on a Russell, c'est intéressant aussi, parce que lui, il a des médiums, et il tourne à peu près dans les même temps. Donc les médiums, qui sont les pneumatiques intermédiaires, évidemment, ne sont pas plus performants que les durs sur ce type de tracé.
Ouais. Ce qui est fou, c'est qu'en Formule 1, aujourd'hui, tu parles plus de gens qui attaquent, de gens qui doublent, tu parles de stratégie, de pneus durs, de pneus soft, de pneus moyens. C'est que se résume la bagarre sur les circuits de Formule 1. C'est un peu dommage. Un mot quand même sur ce virage incroyable dont on nous rebat les oreilles depuis des mois. Hier, on en parlait pendant les qualifs en course. Il est vraiment impressionnant tant que ça, et il ne pousse pas les pilotes à la faute, ce virage incroyable monumental, c'est comme ça que les Espagnols l'appellent.
Oui, le monumental. Oui, parce ce qui est important, c'est
oui, à
ça, comme tu dis, ils ont fait de la com, hein, là-dessus, hein,
ouais.
Avec donc un banking de 13,5 degrés. Mais tu sais, bon, encore une fois, je rappelais que le banking à Zandvoort, le dernier virage, c'est 18 degrés, tu vois. Donc, c'est plus important. La différence, c'est qu'ici, il est beaucoup plus long. C'est effectivement une sorte de parabolique, hein. Les pilotes font le tour. Alors, ils peuvent pas maintenir la pédale à fond tout le long. C'est ce que j'expliquais hier également. Il y a deux stratégies. La première, certains rentrent à fond, mais ils sont obligés de lever à un moment, parce qu'en plus les monoplaces talonnent, hein, évidemment, le sol, on voit les traces au sol, ouais. le fond plat vient percuter, et donc ils lèvent légèrement, ils remettent après. Mais l'autre raison, ce ne sont pas, là aussi, c'est la Formule 1 de 2026, c'est pour recharger les fameuses batteries, parce que si on reste à fond, et oui, si on reste à fond trop longtemps dans la monumentale, ouais, devant les 45 000 spectateurs,
à la sortie du virage, quoi.
Et ben voilà, on n'a plus de puissance électrique à la sortie dans la ligne droite qui suit. Donc tu vois, ça aussi, je suis désolé, mais c'est de la stratégie. Voilà.
D'accord, ok, d'accord. On plus de batterie, donc ça sert à rien de faire des virages hyper rapides si t'as pas assez d'électricité voilà. dans ta batterie. Très bien. On en reste là, donc 23 tours couverts. Leclerc en tête devant Antonelli, Verstappen, Russell et Norris, hein, qui s'était lancé en pole position, mais qui est allé changer de pneu un peu tard et qui a perdu son bel avantage alors qu'il avait fait un très beau début de Grand Prix. 15h43, nous repartons à Pierre-Mauroy pour ce match qui se déroule donc à 15h et qui voit Lille affronter Troyes. Il y a du monde, hein, le stade a l'air quasiment plein, Kevin.
Ouais,
hein,
ça 44 fait 000 spectateurs annoncés pour cette rencontre face au promu. Et 2 minutes à jouer dans la fin de cette première période. Le ballon avec Haraldsson, le milieu de terrain, récupéré dans les pieds de l'Islandais, et les Troyens qui essayent de se projeter rapidement avec le Doiron qui s'enferme un petit peu là sur le côté gauche face à Thiago Santos qui va repasser derrière avec Ouzenadji qui lui repasse avec son coéquipier de la défense centrale, Junior Diaz. Mon frère maintenant pour Antoine Mill, la tour de contrôle de cette équipe troyenne. Antoine Mill qui temporise un peu, les Troyens qui essayent, qui rééquilibrent un petit peu la possession sur cette fin de match. On est quasiment
c'est timide, hein,
plus de 70% pour les Lillois quand même sur cette première période, mais voilà, ils ont quand même pas vraiment de solution quand ils ont le ballon pour aller mettre le danger dans la surface de réparation lilloise. Une minute à jouer dans cette fin de première période et toujours 1-0 donc pour Lille face à l'Estac.
Ouais, on a l'impression, Charlotte, que ce sont les Troyens qui mènent, qui font tourner le ballon au milieu de terrain là. Sans bon, ils ont pas beaucoup de solutions.
Non, il y a pas beaucoup de solutions. On attend beaucoup de Jérémy Le Doiron. C'est pour ça que je voulais demander à Kevin comment il le trouvait dans cette première période. Mais c'est vrai que les Lillois ils gèrent, hein, parce qu'on le rappelle qu'ils ont joué cette semaine. Donc est-ce que voilà, il y a pas une gestion un petit peu des efforts? Il y a quelques changements aussi, Dylan Bakwa et puis Onal sur le côté qui est aussi arrivé cet été. Mais comment tu trouves un petit peu Jérémy Le Doiron, Kevin?
Bah, il a quelques ballons et c'est ça qu'on attend de lui en pivot un peu avec sa taille, l'ancien Brestois. Mais voilà, il est pas forcément très juste techniquement pour l'instant et il y a beaucoup de centres, on le cherche beaucoup aussi du côté troyen sans vraiment le trouver parce que la défense centrale lilloise maîtrise. Et là il va y avoir un coup franc pour conclure cette première période du côté de Pierre-Mauroy avec Onal qui a obtenu ce coup franc dans la partie de terrain troyenne, attrapé par le maillot là par Antoine Mill, coup franc donc à une quarantaine de mètres du but de Beach, avec donc justement Onal ou Dylan Bakwa peut-être pour mettre le danger une dernière fois dans la surface de réparation troyenne. Ce sera Bakwa avec son pied gauche, ce sera vers le premier poteau et de nouveau vers Weda qui intervient devant Beach, mais ce ballon va sortir en 6 mètres, donc même hors jeu peut-être. En tout cas non, ce sera un 6 mètres pour le gardien troyen Patrick Beach qui va sans doute donc conclure cette première période avec son dégagement.
Voilà, le temps.
Alors il y a 4 minutes de temps additionnel, excusez-moi. Parce qu'il y avait le vidéo arbitrage sur le but annulé tout à l'heure d'Haraldsson en tout début de partie dès la première minute de jeu. 4 minutes de temps additionnel. Donc on est
t'as
à 45
secondes.
T'as
envie d'aller à la buvette, toi, je le sens là. Je sens que t'as envie d'aller à la buvette. Ah, il est comme ça, Kevin. Qu'est-ce que vous voulez? Dès qu'il voit une buvette, paf, il fonce dessus. Et comme les desserts après le repas. Hein, c'est un peu pareil. On est pareil. Très bien. Donc 4 minutes de temps additionnel. On a déjà mangé une de minutes. Les Lillois qui, après avoir entamé le match tambour battant, se repose un peu sur leur laurier quand même, Charlotte, là, non?
Oui, parce que finalement il n'y a pas énormément d'adversité, même si on voit pas mal Hugo Picard sur le côté gauche. Mais c'est vrai que Ueda, on l'a trouvé très remuant, Haraldsson aussi qui essaie de se rendre disponible. On voit très très peu Eunal ou Romain Perrault sur le côté gauche. On utilise peut-être plus le côté droit côté Lillois avec Dylan Bakwa, mais c'est vrai que les Lillois ils gèrent.
Oui, d'ailleurs, il y a eu tout à l'heure une frappe de Ueda qui a été de nouveau servie à la limite du hors-jeu dans le dos de la défense troyenne et l'arrêt du gardien Patrick Beach. Et là, ça sera une touche à venir pour les Lillois dans l'angle de leur partie de terrain. Ils vont quand même récupérer ce ballon avec Perrault. Il va falloir ressortir quand même là sans se mettre en danger. Et justement, la tête de Marronnier pour récupérer le ballon côté troyen. De nouveau avec Junior Diaz. Maintenant, Karim qui va servir sur le côté gauche. Ouzenadji pour les Troyens toujours qui ont le ballon dans la partie de terrain des Lillois à 40 mètres du but. Maintenant Junior Diaz qui va servir sur le côté gauche, toujours ce Hugo Picard qui est très remuant sur cette première partie de terrain, première partie de première période, pardon, quand les Troyens ont le ballon. Picard qui remet derrière vers Monfray, la frappe de Monfray, mais c'est loin, loin au-dessus de but de Berkhauser. 47e minute de jeu et 30 secondes dans ce temps additionnel de la première période. Et 1-0 donc pour le LOSC face à 3, alors qu'il reste 1 minute 30 dans le temps additionnel.
Alors, on revient vers toi dans un instant. On fait un tout petit détour par Madrid pour voir s'il y a du changement en tête de ce Grand Prix d'Espagne. Jean-Luc.
Pas pour le moment, Christophe. Nous sommes dans le 26e des 57 tours de ce Grand Prix, donc encore une trentaine à parcourir. Et pour le moment, eh bien, la Ferrari de Charles Leclerc caracole en tête depuis l'arrêt de ses rivaux. On rappelle qu'il va devoir s'arrêter obligatoirement. J'imagine que chez Ferrari, on attend peut-être l'apparition, évidemment, d'un virtuel safety car ou d'un safety car pour essayer de perdre moins de temps dans les stands. Il compte, c'est un peu variable, là, en fonction du dépassement des pilotes moins rapides, mais entre 2,2 secondes actuellement et 3 secondes d'avance sur la Mercedes d'Antonelli. Je rappelle qu'Antonelli s'est arrêté, lui, il y a 11 tours. Il a des pneus durs. Il a derrière lui Verstappen à 6 secondes environ, qui lui aussi est chaussé de pneus durs. Il est donc 3e. Et puis Russell, 4e avec l'autre Mercedes, chaussé, elle, de pneumatiques médium. Et puis enfin Norris, le leader initial de ce Grand Prix, celui qui avait signé la pole, mais qui a commis l'erreur chez McLaren. On ne l'a pas arrêté tout de suite. Il s'est arrêté un tour plus tard. Il se retrouve maintenant 5e à environ 14 secondes du leader.
C'est une erreur stratégique de McLaren,
dans les roues de Russell.
Jean-Luc, c'est une erreur stratégique de McLaren.
Je pense oui. Alors il faudrait regarder exactement le positionnement de la voiture au moment où le virtuel safety car est sorti pour savoir si c'est une erreur de McLaren ou bien s'il ne pouvait pas matériellement entrer dans la voie des stands au dernier moment. C'est la seule petite réserve que j'aimais, mais a priori oui, c'est une erreur stratégique, ouais. Puisque tous les autres ont fait irruption dans les stands immédiatement dès que le VSC a été en piste, et je l'ai signalé tout à l'heure, au lieu de perdre 24 à 25 secondes dans la voie des stands, on ne perdait que 13 secondes. Le résultat est là, puisque actuellement Norris est à 14 secondes du leader Leclerc.
Comment gâcher une pole position acquise de recul tiers par Norris, qui avait fait un super début de Grand Prix et qui se retrouve 5e là après cette erreur stratégique. C'est terminé pour la première mi-temps du côté de Pierre Mauroy, Kevin Morand.
Oui, la mi-temps sur ce score d'1-0 pour le LOSC face à l'Estac. Le but de Thiago Santos à la 18e minute de jeu. Et donc on a terminé par une frappe de Jérémy Ledouaron qui n'a pas trouvé le cadre. Mais il y avait une bonne combinaison là avec Antoine Mille, la petite remise avec une aile de pigeon, mais donc la frappe n'a pas été cadrée de nouveau pour les Troyens sur cette fin de première période. 1-0 pour le LOSC grâce à Thiago Santos.
Merci Kevin, on va tout de suite parier sur la deuxième mi-temps.
Winamax, le plus important, c'est de gagner.
C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax.
On rappelle déjà le pari de Charlotte avant le coup d'envoi.
Je suis encore dans le coup, Jessie, ou non?
Je suis
encore là.
C'était un match nul, le match nul est passé à 5-30. Donc ça.
Attends, mais ça peut encore le faire, quoi.
Bah, bien sûr. Je me suis trompé de buteur pour lui.
Il peut marquer en deuxième mi-temps.
Exact. Ouais, mais j'ai dit 1-1, Christophe.
Le 1 partout, on est passé à 6-25. Donc ça reste quand même assez haut. Ouais. Mais l'évolution et le reste,
c'est mort.
Ah, les buteurs, le Douaron est toujours à 6-25 et pour Bakouar on est passé à 5-40.
Okay.
Je vous donne également les cotes, Lille passé à 1-20 et 3 passé à 15. Donc grosse tendance lilloise avant le début de cette deuxième période.
Je te donne une deuxième chance. Tu peux faire un deuxième pari à la mi-temps.
Tu veux me perturber dans mon pari. Non, je reste sur match nul.
Ah ouais, tu restes sur match nul, mais t'y crois vraiment?
Oui, j'y crois.
T'y crois ou c'est ton cœur de parieuse qui...
mon cœur de parieuse. Non, j'y crois. J'y crois que les Troyens, là, ils vont avoir des opportunités en deuxième, même si Lille maîtrise.
T'es sûr que tu veux faire gagner des sous à nos auditeurs?
Je vais pas changer d'avis, Christophe. Je te regarderai dans les yeux.
Elle est droite dans ses bottes. Parfait. Donc, un partout, nous dit Charlotte. On verra ça à l'issue de ce match. Merci Jesse. Oh, merci Jesse, c'est pas facile.
Winamax, le plus important, c'est de gagner.
C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addictions. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
15h51, toujours Charles Leclerc en tête du Grand Prix d'Espagne devant Antonelli et Verstappen, alors que Russell va rentrer au stand pour effectuer son changement de pneu. Et puis donc, je vous rappelle que Lille mène à 1-0 face à 3. Si le résultat en reste là, eh bien ça permettrait à Lille de revenir en tête à hauteur de Monaco et de Rennes. A tout de suite. On va vivre la deuxième mi-temps et la fin de ce Grand Prix.
RMC Intégral Sport.
Christophe Cessieux.
16h01, vous êtes sur RMC, vous avez fait le bon choix. Surtout, restez avec nous jusqu'au bout de la nuit, ou en tous les cas jusqu'au bout de la soirée, parce que c'est une soirée historique qui nous attend sur RMC, avec tous les événements à vivre en intégralité, avec en point d'orgue évidemment la finale de la Coupe du Monde de basket féminin France-États-Unis. Ce sera à Berlin et le coup d'envoi sera donné à 20h. Également au programme, le tennis, la finale de l'US Open à Flushing Meadows. Eric Salio est dans la place pour cette finale entre Zverev et Ben Shelton, le chouchou de toute l'Amérique qui attend un triomphe en Grand Chelem depuis 2003. Pour les amateurs de foot, il y aura également un très beau Brest-PSG. Coup d'envoi à 20h45. L'hommage de Brest à son ancien entraîneur Eric Roy, décédé l'été dernier. Il y aura beaucoup d'émotions sans doute ce soir à Brest. Et puis, pour ceux qui adorent le rugby, c'est une affiche incroyable entre le vainqueur de la Champions Cup et le vainqueur du Top 14. Le Stade Toulousain, battu la semaine dernière par La Rochelle, reçoit l'UBB ce soir et toutes les vedettes. Il y a près des trois quarts de l'équipe de France qui sera sur la pelouse ce soir, 21h05 pour le coup d'envoi, à suivre avec Wilfried Templier. Si en plus de ça vous adorez le derby mancunien, sachez qu'il vous sera livré à 17h30 avec Valentin Jamin. Si vous aimez les clubs qui viennent de monter en Ligue 1 et qui reçoivent des Européens, il y aura Le Mans-Lens à 17h15 avec Pierre-Yves Leroux. Vous en voulez encore, vous voulez savoir où en est Paul Sexas, et bien ce sera tout à l'heure, le Grand Prix de Montréal avec Kevin Morand, dès qu'il sera rentré de son voyage express à Lille. Et puis si vous aimez la Vuelta, là aussi Maria Azé va tout vous dire. Enric Mas est tout prêt de remporter son premier tour d'Espagne. Vous en voulez encore? Non, c'est bon, ça suffit. Charlotte,
J'ai envie de tout regarder. T'es en forme, Christophe, c'est incroyable.
Toujours en forme. Il faut être en forme pour suivre tous ces événements sur RMC. C'est la mi-temps à Pierre Mauroy, donc 1-0 pour les Lillois face à 3. On va y retourner dans un instant. C'est pas la mi-temps, il n'y a pas de mi-temps en Formule 1, il y a des passages au stand, mais enfin ils sont tellement rapides qu'on a à peine le temps de respirer. Jean-Luc, où en est-on de ce Grand Prix d'Espagne?
Ah oui, très rapide, puisque Russell, le plus rapide, a passé 2 secondes 2 à son stand, tu te rends compte? Et pourtant il a mis 30 secondes, c'est ce que je disais, cette voie des stands est très très longue ici au Madrid. Alors Leclerc est toujours devant pour le moment avec sa Ferrari chaussée des pneus qu'il avait au départ, donc il est dans son 36e tour et les performances ne pèsent pas pour le moment, donc on va essayer d'attendre évidemment l'incident en piste pour pouvoir changer de pneumatique dans les meilleures conditions en perdant le minimum de temps du côté de chez Ferrari. Derrière, eh bien on a Antonelli, parti de la première ligne, qui lui a changé de pneu il y a 21 tours, il est à 3 secondes, un peu plus de 3 secondes, 3 secondes 1 exactement. Et puis Verstappen derrière, lui aussi s'est arrêté au même moment qu'Antonelli, il est 3ème, il est à 4 secondes 6 exactement d'Antonelli. Norris, le poleman, est 4ème, Norris lui a changé de pneu, et Norris a été l'homme le plus rapide en piste là, il y a un instant, mais il est quand même à 11 secondes du leader, je viens de le dire, et à près de 4 secondes de Verstappen. Et puis Russell est en forme également, lui s'est arrêté 2 fois, il a des pneus durs mais qui ont 7 tours seulement, et il vient de prendre l'avantage sur Lawson pour s'emparer du 5e rang. Mais Russell est quand même actuellement à 29 secondes de Norris, donc à la régulière c'est pas joué du tout. Lawson est donc 6e, Piastri 7e avec l'autre McLaren, Pierre Gasly un excellent 8e pour le moment, mais Pierre ne s'est pas arrêté, donc on sait qu'il va devoir évidemment changer ses pneumatiques dures qu'il a depuis le début. C'est le cas de celui qui le suit, c'est-à-dire Gabriele Bortoleto, le Brésilien d'Audi. Et puis le dernier dans les points, eh bien, c'est Colapinto avec l'autre Alpine qui est 10e actuellement. Colapinto s'est arrêté une fois. Je signale qu'Ocon est 13e et lui s'est déjà arrêté.
Voilà qui est un point complet de la part de Jean-Luc. Il est comme ça, il est parfait. C'est reparti en attendant du côté de Lille. Pierre Mauroy pour la deuxième mi-temps entre Lille et Troyes, Kevin.
Oui, 45 secondes de jouer dans cette seconde période et un changement à vous signaler du côté de Stéphane Dumont et des Troyens. Noah Doncor qui entre à la place de Marronnier sur le côté droit de la défense de la défense donc troyenne. Pas de changement du côté de David Ancelotti pour l'instant. Il y a des éléments sur le banc côté lillois, notamment évidemment Olivier Giroud, Ethan Mbappé ou Gaëtan Perrin qui rentreront certainement, et puis Benjamin André également, le capitaine habituel qui pour une des rares fois dans sa carrière depuis qu'il est au LOSC est sur le banc. J'ai regardé un petit peu, hormis l'année dernière lors du derby contre Lens où il revenait de blessure et il avait débuté sur le banc, sinon il avait joué quand il était là tout le temps titulaire et rarement remplaçant, très très rarement remplaçant. Benjamin André qu'on verra peut-être
peut-être, à moins qu'il soit laissé au repos complètement cet après-midi. Donc c'est reparti depuis une minute 30 et toujours ce score d'1-0 entre Lille et Troyes. Et ce sont les Troyens qui ont le ballon dans ce début de seconde période, avec justement l'entrant d'Oncor qui sur le couloir droit à la possession avec Mille qui remet derrière lui sur Monfray. Les ballons dans la défense troyenne récupérée là par les Lillois avec Perrault et le milieu de terrain Lillois. Ça lance rapidement avec Ueda qui lance Onal vers Bakwa et l'intervention de Ouzenadji pour repousser le danger côté troyen. 1-0 donc après 2 minutes de jeu dans cette seconde période à Pierre Morrois.
Charlotte, un mot ajouté?
Oui, je pense que les Troyens, ils doivent se servir de cette seconde période contre Strasbourg où ils ont complètement explosé physiquement. Donc les Lillois, Kevin, tu l'as très bien dit, ils ont du monde hein, sur le banc. Donc c'est vrai qu'ils doivent rester très concentrés, très concernés. Mais les Lillois, quand même, ils vont avoir encore cette maîtrise. Mais ça tient côté Troyens.
Ça tient pour le moment, 1-0, rien n'est encore fait dans cette rencontre. 16h07, on espère que ce sera fait et bien fait pour l'équipe de France féminine de basket ce soir en finale de la Coupe du Monde, 20h à Berlin. Félix Gabory est déjà sur place pour humer l'atmosphère de cette salle. Alors évidemment, les Allemands sont déçus, ils auraient bien préféré que l'Allemagne batte la France hier. On se souvient de l'ambiance incandescente en finale olympique il y a 2 ans, Félix, cette ambiance à Bercy qui avait porter l'équipe de France. Malheureusement, il avait manqué un tout petit peu, mais ça avait quand même bien servi l'équipe de France. Ce soir, le public sera partagé entre les stars de la WNBA et les Françaises, où il a déjà fait son choix.
Ouais, re-salut Christophe, re-salut tout le monde. Ce qu'on peut te dire déjà, c'est que il y a un sacré contingent de supporters français qui a fait le déplacement à Berlin. On est ici quasiment en voisin chez nos amis allemands, que ça soit pendant les quarts de finale ou pendant les demi-finales, il y avait plusieurs centaines de supporters français qui sont disséminés en groupe un peu partout dans la Uber Arena de Berlin. Et ils se font vraiment beaucoup entendre. Donc elles seront pas seules les Françaises, ça sera pas l'ambiance incandescente qu'il y avait hier soir pour la demi-finale contre l'Allemagne. Il y avait plus de 12 000 personnes qui poussaient derrière les Allemandes à domicile, d'ailleurs, ce qui n'a pas du tout dérangé nos Bleus qui ont fait preuve d'une grande maîtrise. Mais quelque chose me dit aussi, Christophe, que potentiellement les supporters neutres entre guillemets de cette finale, tous les Allemands qui viennent là en simple spectateur, quelque chose me dit quand même qu'ils voudront peut-être un petit peu soutenir quand même plutôt l'équipe de France contre ces Américaines, parce qu'il faut dire que voilà, dans le basket féminin français, basket féminin mondial, on en a peut-être un peu marre aussi de voir les Américaines gagner tout le temps. Ça fait 20 ans qu'elles n'ont pas perdu un seul match en compétition internationale, donc voilà, c'est peut-être le moment de voir quelque chose de grand ce soir à Berlin.
Bon, on l'espère évidemment. On rappelle que le basket aux États-Unis, c'est une véritable religion, que les championnats, qu'ils soient masculins ou féminins, attirent tous les plus grands joueurs du monde. Mais à force d'attirer des étrangers, des étrangères vont bien finir par se faire battre les équipes américaines hein, chez les garçons et chez les filles, même si y a quand même une très nette domination des américaines depuis tout temps. Elles ont quasiment jamais perdu en fait hein, dans aucune compétition. Je crois qu'elles ont jamais perdu aux Jeux Olympiques par exemple depuis que le programme, enfin depuis que le basket a été instauré chez les filles, c'est quoi, en 1984, un truc comme ça.
Ah, j'ai pas la date exacte, ouais, Christophe. J'avoue que j'étais pas né, je n'ai pas vécu cette période. Mais oui, de toute façon, de tout temps, voilà, c'est les baskets, c'est le sport des Américains. Il y a eu pendant une très courte période l'URSS qui arrivait à un petit peu les battre sur certaines compétitions. Mais voilà, quand on parle d'URSS, tout de suite, on a compris qu'on parle quand même d'un autre temps. Les Américaines, pour parler d'elles, hein, c'est fait depuis 2006, hein, 20 ans, 2 décennies qu'elles n'ont pas perdu un seul match. C'est 73 victoires consécutives dans des compétitions internationales pour les Américaines, c'est tout simplement monstrueux. Et si on fait la comparaison avec les garçons, alors on sait que les stars de NBA marchent aussi sur la planète basket depuis des décennies, mais c'est encore plus fort que les garçons en termes d'invincibilité, parce que les garçons, les Américains, ils se font attraper de temps en temps. D'ailleurs, nous, les Français. Ouais. Les Français, d'ailleurs, nous, on les a déjà attrapés, donc jamais dans des finales ou autres, mais on les a déjà battus en poule, etc. Alors que voilà, la dernière victoire d'une équipe de France contre les Américaines, c'était en 1971. Donc là, j'étais encore moins né, Christophe, à ce moment-là.
Comment c'est ça pour dire, t'étais pas né en 71, hein. Peut-être
non, pas non, non, j'ai... À un quart de siècle près, j'étais pas né.
Alors, dis-moi, c'est qui la grande star du basket féminin dans le monde? C'est une américaine ou c'est notre française, notre capitaine Gabby Williams? C'est qui la joueuse la plus bankable, la plus connue au monde?
C'est... Ah, la plus grande star, c'est l'américaine Caitlin Clark, qui est un peu la relève du basket féminin américain. C'est le nouveau visage de la WNBA, Caitlin Clark, mm-hmm. qui est hyper bankable, qui a signé des contrats records en WNBA. Mais on en parlait tout à l'heure, nous, côté français, on n'est pas du tout en reste. On a aussi des stars. Déjà, la première d'entre elles, c'est la capitaine française Gabby Williams, donc qui est franco-américaine, mais qui est bien française en termes de... Quand on parle de nationalité sportive, c'est bien notre maillot qu'elle porte. On en est bien content parce que voilà, elle fait partie du gratin mondial. Gabby Williams, elle a été sélectionnée pour faire le All-Star Game de WNBA, donc le match des galas, le match des étoiles qui regroupe les meilleures joueuses de WNBA. Dans ce match de galas, All-Star Game, il y avait aussi une autre française qui était Dominique Malonga cette année. On peut aussi citer évidemment Marine Joannes, la magicienne, qui a un jeu si atypique, si spectaculaire. Qui est une des stars aussi du basket mondial. Et on peut aller encore très loin, parce que dans cette équipe de France, il y a tout simplement 8 joueuses qui jouent en WNBA. Donc 8 joueuses sur 12, si je suis bon en mathématiques, ça fait 3 quarts de cette équipe de France qui joue en WNBA, donc dans la plus prestigieuse des ligues nord-américaines. Elles ont l'habitude de se battre contre les Américaines, de les regarder droit dans les yeux. Toute l'année, elles jouent face à elles. C'est un peu leur collègue de bureau. Donc il n'y a pas de complexe d'infériorité. Les Françaises et l'équipe de France fait partie des plus grandes nations dans le basket mondial. Et elles vont vraiment vouloir le prouver là, ce soir à Berlin.
Alors, il y a une autre star dans l'équipe américaine. Elle a un surnom étonnant. On l'appelle la Bayou Barbie.
ça te plaît, ce truc?
Ça me plaît bien. C'est Angel Reese qui joue dans 5 majeurs de cette équipe américaine, qui est là aussi une superstar du basket américain. Hein.
Bah, elles en ont évidemment beaucoup de superstars, ces américaines. On peut aussi citer Paige Buckers, qui fait partie de cette relève. Je parle depuis tout à l'heure de relève, parce que pour ceux qui se rappellent de la finale des JO 2024, il y en a que 5 joueuses américaines qui étaient là lors des JO 2024 il y a 2 ans, donc alors que nous il y en avait 8, donc en fait on a plus d'expérience par rapport à
Américaines. Ça va pas faire un pli, tu vois, cette histoire.
Mais donc voilà, c'est une équipe très jeune, ces Américaines, qui doit insuffler un peu une nouvelle dynamique, un nouveau cycle, un cycle qui doit les mener vers les JO de Los Angeles 2028, donc qui seront des JO à domicile. Mais on se dit que là justement on est un peu au début de ce nouveau cycle, et que s'il y a un moment pour pouvoir les prendre et pour pouvoir les taper, ces Ricaines, et ben c'est peut-être maintenant, parce que nous, de notre côté, on a justement des qualités à faire valoir, on a de l'expérience, et on a aussi, Christophe, cette expérience justement de la finale des JO 2024 qu'on a perdu de seulement un point il y a 2 ans. Pour quelques centimètres, Gabby Williams aurait pu égaliser, emmener tout le monde en prolongation, et pour quelques centimètres, finalement c'était un tir à 2 points et non à 3 points. Mais on a engrangé de l'expérience, de la confiance, et justement sur ce souvenir des JO 2024, hier on a forcément posé la question à Dominique Malonga, la française, et on peut écouter ce qu'elle nous a répondu.
Je pense qu'elle va beaucoup nous servir, parce qu'on a justement déjà été dans cette position, une grande finale sur la plus grande scène. On n'aura pas froid aux yeux, entre guillemets, parce qu'on aura déjà été dans cette position. Maintenant, ce sera un setting complètement différent, l'équipe est différente. On ne veut pas forcément prendre l'exemple de cette finale, je pense qu'on veut refaire un nouveau match. Et dans tous les cas, si on joue notre basket, le basket qui nous a amené ici, on peut battre n'importe qui.
On peut battre n'importe qui. C'est pas n'importe qui, les Américaines, mais on peut les battre. Hein. Tu es confiante, Charlotte?
Oui, parce que je trouve que on nous l'a dit, hein, y a un nouveau cycle, mais c'est vrai que c'est le moment pour nos Françaises de gagner, qui ont été très 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 solides défensivement. Il y a un bon banc aussi, donc il y a une belle équipe qui se dessine avec nos stars à nous, même si les Américaines évidemment ont un peu plus d'ampleur, un peu plus de titres. Mais non, je le sens bien. Après, dans le futur, est-ce que aussi nous on a des pépites? Est-ce qu'on a aussi des relèves?
La relève est là, ouais, parce que c'est vrai que les Américaines sont assez jeunes. Derrière, ça suit son cours, Félix. Il y a de bonnes joueuses qui sont en devenir dans le basket français.
Déjà, là, nos meilleures joueuses, on n'a pas Gabby Williams, Marine Joannès, elles sont à peine trentenaires, hein, ces deux joueuses-là. Donc, il y a encore quelques années à voir venir. Et il y a aussi toute une nouvelle génération qui arrive. Nous, on n'est pas en reste au niveau du nouveau cycle. J'ai parlé de Dominique Malonga, qu'on vient d'entendre. Dominique Malonga, elle a à peine 20 ans. On a toute une génération de Pauline Astier, de Carla Leite, qui sont en train de d'éclore aux États-Unis en WNBA. Carla Leite, notamment, qui fait une saison assez extraordinaire du côté des États-Unis. Idem pour Pauline Astier qui vient de débarquer du côté de New York, du New York Liberty, et qui a fait une saison au-delà de toutes les espérances. Donc oui, nous aussi, on a pas mal de jeunes et on a de quoi voir venir. On peut penser au JO 2028, mais on pense tout de suite, nous, à cette finale d'abord dans quelques heures, parce que ces joueuses-là, que je viens d'évoquer, elles sont jeunes, mais elles ont déjà de l'expérience.
Donc pour toi, 30 ans, c'est jeune, ça me rassure. Parce que
évidemment, c'est mon âge, Charlotte, pour ne pas pour rien divulguer. C'est mon âge, donc évidemment qu'on est encore très jeune à 30 ans, qu'on a de belles années devant nous.
Ouais, c'est ça, tu vas voir comme ça file, mon gars. Fais pas ton malin sur ce petit jeune-là. Merci, Félix, à toi. Tout à l'heure, donc 20h, on le rappelle, pour le coup d'envoi de cette finale entre la France et les États-Unis et les Bayou Barbie et autres stars américaines. On va en faire de la chair à pâté, vous allez voir. Clac. On va leur montrer de quel bois on se chauffe dans le basket français. Très bien, voilà pour le basket. On retourne au foot, Charlotte ?
Ouais, on retourne voir
Pierre Mauroy,
notre Kevin.
Pas forcément, non.
Comment ça ?
58e minute de jeu à Pierre Mauroy.
Notre Barbie à nous, c'est Kevin.
Un peu moins blond. 1-0, donc toujours le score pour les Lillois, ce but de Thiago Santos en première période. Il n'y a pas eu d'occasion majeure, mais il y a quand même des corners pour les Troyens. Il y en a déjà eu deux dans ce début de seconde période. Et ils ne sont pas franchement mis à profit. Et c'est dommage pour les joueurs de l'Estac, parce que les occasions se font rares quand même de s'approcher de la surface, même si là ils y sont encore avec Ouzenadji, le ballon contré et ça va être dégagé par Thiago Santos, mais ça va encore revenir les Troyens qui restent dans la partie de terrain nordiste. Charlotte, on voit peut-être un petit peu de suffisance technique du côté des Lillois en ce début de seconde période, voilà, des passes manquées, de la suffisance dans ces 13 premières minutes depuis la reprise.
Oui, je pense qu'il y a un petit peu de fatigue aussi, il va falloir rester vigilant. Est-ce qu'il y aura des changements du côté de David et Ancelotti, mais c'est vrai que forcément, tu le disais, il n'y a pas énormément d'adversité, même si les Troyens montrent des choses, mais c'est vrai, être dans les 10-15 derniers mètres, être très dangereux, ils ont un peu de mal. Je pense qu'il y a beaucoup de gestion de la part des Lillois, mais attention, il y a seulement 1-0, il peut y avoir un corner que les Troyens ont depuis quelques minutes, ils enchaînent les corners, donc il peut y avoir une différence sur ça.
Oui, on a vu s'échauffer sur le côté du terrain Olivier Giroud, Ethan Mbappé et Benjamin André, justement, dans ce début de seconde période. Coaching peut-être à prévoir du côté de David et Ancelotti, alors qu'on est à l'heure de jeu à Pierre Mauroy. Les applaudissements redoublent du côté du stade, et donc ce score d'1-0 en faveur des Dogs face aux Troyens.
16h19 sur RMC, nous repartons à Madrid. Nous sommes à 11 tours de l'arrivée de ce Grand Prix d'Espagne de Formule 1 et Charles Leclerc tient toujours la tête de ce Grand Prix. Il n'a pas changé de pneus depuis le début et il va sans doute essayer de les amener jusqu'au bout, ces pneus, Jean-Luc.
Et il ne pourra pas, Christophe.
Il est obligé de s'arrêter.
Et tu sais, le règlement impose un changement de pneumatique, impose d'utiliser deux types de gommes différentes pendant le Grand Prix.
Ouais.
Donc oui, peut-être qu'il pourrait, c'est effectivement.
Pas, ça n'incite pas à l'anti-gaspi, cette histoire-là, quand même.
Non, c'est clair. Non. Et le règlement est ainsi fait. Donc là, on essaie de pousser au maximum. On est à une grosse dizaine de tours, comme tu le signalais, de l'arrivée de ce Grand Prix. Mais décidément, cette piste n'est pas abrasive du tout. Et on voit que beaucoup de pilotes sont capables de les emmener beaucoup plus loin que ce que le manufacturier lui-même avait prévu. Alors, du côté de Ferrari, comme je le signalais, on attend peut-être une erreur, la sortie d'un safety car ou d'un virtuel safety car pour permettre de s'arrêter au stand et de perdre beaucoup moins de temps. Pour le moment, ça n'est pas le cas. Alors, c'est un pari évidemment qui est risqué, mais d'un autre côté, le rythme de Charles Leclerc est toujours bon. 1:38 au dernier tour, c'est-à-dire que Antonelli, par exemple, qui a changé de pneumatique une quinzaine de tours plus tard, n'est pas beaucoup plus rapide que lui. Il est toujours à 2 secondes environ. Antonelli, qui lui-même contrôle Verstappen pour le moment, et puis c'est Norris qui a fait cette remontée. Lui a changé de pneu, donc un peu plus tardivement que les autres, et il est remonté, il n'est pas très loin de Verstappen. Donc on a toujours une Ferrari, celle de Leclerc, à moins de 2 secondes maintenant la Mercedes d'Antonelli, et puis la Red Bull, celle de Verstappen, et juste derrière la McLaren de Norris. Donc rien n'est joué. Ouais. Le cinquième, eh bien, c'est Russell qui est assez loin, mais lui a des pneus beaucoup plus frais. À signaler que Gasly est un brillant sixième avec l'Alpine, mais ouais, Gasly confirme, ne s'est pas
confirme,
arrêté.
Voilà. Il confirme sa bonne période, on le rappelle, auteur de la pole la semaine dernière en Italie, et qui là s'accroche. Il est le premier des autres, c'est-à-dire derrière les Ferrari, les Mercedes, les Red Bull et les McLaren. Donc Gasly qui est sixième de ce Grand Prix de Formule 1, la Formule 1 qui est le seul sport où on vous oblige de changer les choses, même quand elles fonctionnent encore. Qu'est-ce que vous laissez comme ça? À tout de suite, Jean-Luc, pour la suite et la fin de ce Grand Prix. Il y a un coup franc dangereux pour le LOSC, non?
Oui, absolument. Kevin, c'est ça, ouais. Absolument. Dylan Bacqua qui place ce ballon, et également Unal qui est à côté. On est à 35 mètres là du but de Beach. C'est joué à côté avec Perrault. Perrault qui va essayer de remettre ce ballon par-dessus dans la surface de réparation. Il y avait une faute lilloise dans la surface. A signalé quand même la sortie d'Alcon Haraldsson à l'heure de jeu, remplacé par une recrue, Moritz Kjærgaard, danois, milieu danois de 23 ans, qui avait joué 14 minutes en Ligue des Champions cette semaine, et qui donc arrive du Red Bull Salzbourg, et qui vient d'entrer à la place de l'Islandais Haraldsson. 63e, 1-0 pour Lille face à Troyes.
Ils sont pas encore à l'abri les Lillois, hein, Charlotte. Attention de ne pas se faire surprendre par ces Troyens.
Ils sont en train de laisser espérer. Ils avaient eu des opportunités. Là, les Troyens qui arrivent, peut-être un peu plus de fraîcheur, j'en parlais tout à l'heure. C'est vrai que les Lillois, du côté d'Olivier Létang, il n'y a pas énormément à chaque fois dans l'intersaison de recrues. Donc on a hâte. Là, on a vu Onal notamment, qu'on voit peu. Hein. Il a très peu de temps de jeu aussi. Mais il y a quelques recrues. On attend de voir. Ueda, que j'aime beaucoup. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais Kevin, mais j'aime bien ce petit joueur, ce japonais là, très remuant,
et aussi qui n'est pas décroché. Mais à bouger.
Je l'ai trouvé timide contre le Betis. Après, c'est la Ligue des Champions, hein. C'est une autre compétition, c'est un autre standing. Mais j'aime beaucoup. Il essaie de se connecter avec Haraldsson. Donc voilà, ça va. On va voir par la suite.
Parfait. 16h23. Vous êtes sur RMC. Les dernières minutes de ce Lille 3 et les derniers tours du Grand Prix d'Espagne de Formule 1. Voilà le programme des minutes à venir sur RMC.
RMC Intégral Sport.
Christophe Cessier.
16h26 sur RMC, l'Intégral Sport. Nous sommes en quelque sorte l'apéritif de ce fantastique dimanche de sport, je vous disais tout à l'heure, donc les rendez-vous qui vous attendent ce soir. Mais c'est bien parti, Charlotte, avec deux beaux rendez-vous. Tout d'abord le foot, même si le match entre Lille et Troyes avait démarré sur les chapeaux de roue, c'est un peu moins le cas maintenant.
Ouais, hein, finalement, petit rythme du côté des Lillois qui gèrent, hein, parce qu'ils ont joué cette semaine contre le Betis, mais les Troyens qui persévèrent, qui montrent un peu de personnalité. Donc à voir si les Lillois vont pas se faire peur sur la fin.
On va voir ça. Pour l'instant, un but à zéro. Il reste encore un petit peu de temps, 23 minutes avant la fin de ce match. Et puis, ce qui devait arriver, arriva sur le Grand Prix d'Espagne. Leclerc, qui a été obligé, ainsi que le veut le règlement, de s'arrêter. Il a changé de pneus. On a mis les pneus à la poubelle et on y a mis des nouveaux. Et du coup, il a perdu 3 places, Jean-Luc. C'est bien dommage, cette histoire. Hein.
Oui, Christophe, mais c'était prévu. Hein. De toute façon, c'est un pari stratégique. On a attendu autant que faire se peut du côté de chez Ferrari. On a attendu, comme je l'ai dit, ce safety car ou ce virtuel safety car qui n'est pas venu.
Mais là, donc, on a choisi des pneus rapides. Là, il va remonter comme une fusée, comme une furie.
Avec comme une balle, parce que là on l'a mis les pneus soft, hein, les plus tendres. Alors évidemment la partie n'est pas gagnée, parce que il se retrouve quatrième. L'important c'était de contrôler George Russell qui lui s'était arrêté il y a 22 tours pour monter les pneus durs, mais il était à 32-33 secondes de Leclerc, qui était donc leader, et Leclerc s'est arrêté. Il est ressorti avec à peu près 2 secondes et demie d'avance, donc le pari est gagné. Il est quatrième pour le moment, Charles, et il va essayer de tout faire pour remonter maintenant à la régulière, même si les pneumatiques 20, les plus tendres, tout neuf, ça va être compliqué, ouais. Hein, parce que on a une bataille entre 3 pilotes. Kimi Antonelli, le jeune Italien de Mercedes, vainqueur à Monza, leader du championnat du monde, qui compte 1,8 seconde d'avance seulement sur Verstappen et sa Red Bull. Toujours des pneus durs pour ces trois hommes-là. Le troisième, eh bien, c'est Norris, le leader initial, qui lui aussi a des pneus durs sur la McLaren. Et les trois hommes sont séparés par moins de 2,8 secondes au total. Tu vois, donc le baston est complet là.
C'est dommage qu'on puisse pas doubler sur ce circuit quand même.
Bah écoute, on va voir. J'allais te dire, avec le talent de ces trois-là, je peux te dire que s'il y a la moindre opportunité, c'est-à-dire quand même, ce sont des pneumatiques hein, qui ont 36 et 37 tours maintenant, ça fait beaucoup. Il en reste 5 à parcourir. Il peut toujours y avoir une petite erreur commise par l'un ou par l'autre, évidemment, à son corps défendant. Et à ce moment-là, eh bien, celui qui suit va sauter sur l'opportunité. Et évidemment, ça va être tendu. Hein. On peut faire confiance à Antonelli qui a démontré encore à Monza sa maîtrise absolue. Et puis la Mercedes est performante sur tous les circuits. C'est derrière entre Verstappen et Norris, à mon avis, que c'est pas joué, parce que le poleman, hein, Lando Norris, faut-il le rappeler, le champion du monde en titre, le porteur du numéro 1 sur sa McLaren, va tout faire évidemment pour essayer d'accéder à la deuxième marche du podium au détriment de Norris. Et derrière, eh bien, je te l'avais dit, hein, c'était annoncé, Leclerc est en train de se lancer dans cette cavalcade. Mais bon, pour le moment, pour lui, l'important, c'est de maintenir la quatrième position par rapport à Russell. À signaler que Gasly ne s'est toujours pas arrêté, donc il est sixième avec l'Alpine, mais évidemment il va s'arrêter, perdre une trentaine de secondes et céder cette sixième place à Lawson qui est septième actuellement, Colapinto huitième, Piastri seulement neuvième avec l'autre McLaren, Lindblad dixième et Hülkenberg onzième. Ça veut dire qu'Ocon douzième actuellement va se retrouver aux portes des points.
Merci Jean-Luc. On va repartir à Lille dans un instant. On fait un petit détour tout de même. On reste en Espagne, mais on va du côté de Grenade. Madrid, habituellement, c'est là où se termine le Tour d'Espagne. Mais cette année, comme il y a le Grand Prix, on fait terminer les coureurs de cette Vuelta du côté de Grenade, au pied de l'Alhambra, où on va retrouver Maria Azé, qui va nous faire vivre la dernière étape de cette Vuelta. Salut Maria.
Salut Christophe, salut Charlotte, salut tout le monde.
Dernière étape donc de cette Vuelta et le sacre annoncé d'un Espagnol. Ça fait des années qu'ils attendaient de voir l'un des leurs triompher dans leur tour national. Bah, ça va se faire avec Enric Mas, qui a été incroyable depuis que Pogacar a abandonné. C'était il y a 2 semaines. Voilà, il n'a jamais faibli et il va s'imposer tout à l'heure. Le plus grand succès de sa carrière.
Oui, 2014, Christophe. Depuis 2014, on n'avait pas vu et Alberto Contador, on n'avait pas vu un Espagnol s'imposer sur la Vuelta. Ça va être fait avec Enric Mas. Évidemment, les Espagnols sont ravis. Enric Mas, l'éternel deuxième, un petit peu trois fois deuxième sur la Vuelta durant sa carrière. Il a fait 4 podiums, il a 31 ans. Et ça y est, en effet, évidemment un petit peu aidé par le forfait de Tadej Pogacar qui était largement devant. Mais on le rappelle, le Slovène a chuté lors de la 8e étape et il a été contraint d'abandonner. Ça a fait les affaires d'Enric Mas qui va s'imposer sur cette Vuelta. Alors pour l'occasion, toute son équipe, la Movistar, un cuissard rouge avec les lettres qui sont d'habitude en bleu, sont en rouge aujourd'hui pour cette dernière étape de la Vuelta. Tout sourire, les coéquipiers d'Enric Mas. Et on va avoir une belle étape aujourd'hui, Christophe, qui rappelle un petit peu l'étape de Montmartre entre Grenade et Grenade. Ça va être une étape en circuit 4-1. On va rentrer tranquillement dans Grenade et faire 4 fois le tour d'un circuit avec la côte de l'Alhambra qui sera donc à parcourir à 4 reprises. On pourrait bien imaginer un Wout Van Aert s'imposer aujourd'hui sur une étape un petit peu accidentée de 112 km, et ça va partir d'ici quelques instants.
Et oui, comme il l'avait fait l'année dernière dans les rues de Montmartre en battant Pogacar. Donc Van Aert qui a été auteur d'un super tour d'Espagne, hein, Maria, franchement, des victoires d'étape, il a beaucoup aidé Brennan et il sera là aussi l'un des favoris pour le titre de champion du monde dans 2 semaines à Montréal.
Non, ouais, ce sera un des candidats sérieux à surveiller. 2 victoires d'étape sur cette Vuelta, le maillot vert aussi qu'il ramène à Grenade, exceptionnel, on l'a vu tout au long de ces 3 semaines. Et oui, il va falloir qu'il s'habitue au décalage horaire puisqu'il va décoller pour Montréal dès demain pour l'objectif majeur de cette fin de saison qui sera les championnats du monde le 27 septembre prochain avec la Belgique, avec Remco Evenepoel qui sera là, plus son adversaire mais son coéquipier, à voir comment il va récupérer de ces 3 semaines de course qui ont été quand même assez intenses.
Effectivement, et on suivra tout à l'heure également une course très intéressante en vue de ces championnats du monde. Ce sera le Grand Prix de Montréal qui se dispute sur une partie du circuit des championnats du monde et qui débutera dans quelques instants avec du beau monde, avec Remco Evenepoel, avec Paul Sexas évidemment, avec Del Toro, avec tous les autres grands favoris de ces championnats du monde. Et ensuite tout le monde se rejoindra donc au Canada pour justement aller décrocher ce maillot arc-en-ciel, le plus beau maillot du cyclisme, et profiter de l'absence de Pogacar qui, lui, vous le savez, est forfait jusqu'à la fin de la saison. Il se remet de ses blessures occasionnées il y a 2 semaines sur la Vuelta. À tout à l'heure Maria, donc, pour suivre le triomphe d'Enric Mas qui lui a bien saisi sa chance avec l'abandon de Tadej Pogacar. À tout à l'heure, 16h34 sur RMC. Il reste encore un gros quart d'heure à jouer à Pierre-Mauroy. Et les Lillois, Kevin, qui sont toujours pas complètement à l'abri d'un retour de 3.
Absolument, 1-0 depuis ce but de Thiago Santos. C'est le gros coaching de David Ancelotti. Il y a quelques minutes de ça pour les 20 dernières minutes, puisque Olivier Giroud, Gaëtan Perrin et Ethan Mbappé sont entrés à la place de Bakua, de Ueda et de Onal, donc pour tenter de se mettre à l'abri, de faire le break dans cette fin de match. Charlotte, évidemment, on connaissait la qualité du banc lillois au départ. Il y a Benjamin André, le capitaine, qui est encore sur le banc, mais voilà, ils vont essayer de faire un peu mieux, de mettre à l'abri les Lillois pour assurer les 3 points face aux promus troyens dans ce dernier quart d'heure.
Oui, et puis surtout avoir un peu plus de maîtrise offensivement, de garder le ballon un peu plus, monter le bloc, hein, Lillois, parce que les Troyens ils essayent d'avoir des opportunités. Il y a aussi Gomis qui est rentré du côté de Troyes et Nkada, donc un peu plus de fraîcheur. Mais c'est vrai que quand on fait rentrer Olivier Giroud, Ethan Mbappé et Gaëtan Perrin, on voit quand même que l'effectif de Lille est quand même très intéressant. Donc c'est pour avoir un peu plus de maîtrise et effectivement gérer les temps de jeu
et mettre un peu de force vive dans cette bataille qui n'est pas encore gagnée pour les Lillois, qui avaient débuté la partie très rapidement, qui avaient ouvert le score, but refusé de la deuxième minute, qui a ensuite scoré quelques instants plus tard. Il y a eu un deuxième but refusé pour Lille. Depuis, ben le ronron s'est installé dans ce stade Pierre-Mauroy et les Troyens n'en ont pas encore profité, mais il leur reste encore un petit quart d'heure pour essayer de le faire. Il reste plus grand chose comme temps pour Charles Leclerc pour essayer de remonter sur la tête de course. Malheureusement, ses pneus soft ne lui permettent pas de revenir sur le trio de tête. Jean-Luc, Antonelli, Verstappen, Norris, ce sera sans doute le trio à l'arrivée. Personne ne s'est doublé dans cette histoire, hein.
Oui, absolument, ça devrait être ça, même si la pression de Norris, je le signalais tout à l'heure, a été intense, hein, sur la boîte de vitesse de la Red Bull, mais il a commis une petite erreur, encore que à la faveur du dépassement de pilote moins rapide, eh bien, on voit que Norris est revenu dans le sillage de Verstappen. Ça peut tenter, ça peut passer éventuellement, alors que Antonelli devant lui est assuré, a priori, de la victoire, hein, puisqu'on va rentrer dans le dernier tour bientôt. Ah oui, c'est chaud là, très très chaud effectivement, avec Verstappen qui se maintient de justesse devant Lando Norris, qui a essayé de profiter du dépassement d'une Audi. Là, on prenait un tour effectivement à Hülkenberg. Ça veut dire que on va jusqu'au dernier tour, hein. C'est ce que je te disais. Ouh là là là, très 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 chaud là. Avec les murs, évidemment, c'est difficile, je l'évoquais tout à l'heure, de sortir de la trajectoire unique, parce que sinon, eh bien, on risque le contact avec le mur. Verstappen, évidemment, utilise tout son talent, hein, le quadruple champion du monde, pour occuper toute la piste. Il avait cette remarque justement après des essais, en disant: si on reste bien sur la trajectoire unique, eh bien il est quasiment impossible d'être dépassé. Et c'est ce qu'il est en train d'appliquer à la lettre, véritablement. Verstappen qui devrait monter sur un nouveau podium, donc après celui de Monza où il était sur la troisième marche, là ce serait la deuxième. Mais une nouvelle fois, on est entré dans le dernier tour maintenant. Eh bien, le vainqueur, ça devrait être, pour la huitième fois de sa carrière de pilote de Formule 1, pour la huitième fois de cette saison, le jeune Kimi Antonelli. C'est vraiment une pépite, c'est vraiment un talent exceptionnel. Il va évidemment augmenter son avance au classement général provisoire du championnat du monde. Il comptait 66 points avant ce Grand Prix sur son équipier Russell. Russell ne va terminer que cinquième, donc perdre énormément d'espace et de points par rapport à lui. Lewis Hamilton n'est plus là non plus, donc alors que Gasly, voilà, s'arrête maintenant, hein. C'était prévu, Christophe, malheureusement, cette belle sixième place, il la cède à Lawson, comme je l'avais dit, et Colapinto derrière, et puis Piastri, Lindblad et Hülkenberg qui devraient être le dernier dans les points, même si Lindblad et Hülkenberg sont maintenant à un tour d'Antonelli. Antonelli dans ce dernier tour, donc ça va être vraiment un triomphe, hein. Il était parti sur la première ligne de la grille de départ, et bien il a appliqué la stratégie à la lettre. Il s'est arrêté il y a 42 tours, donc après une quinzaine de tours, en profitant du VSC, de l'accident de Stroll, et la stratégie a parfaitement fonctionné. Il est parvenu à rester devant Verstappen, qui va donc signer un nouveau podium avec cette Red Bull, et puis Lando Norris, le poleman, qui aura fait le boulot là aussi, mais évidemment le fait qu'il ait été arrêté un tour plus tard, c'est ça qui a fait la différence, puisque lui a passé plus de temps dans les stands. Il n'a rien pu faire pour revenir plus haut que la troisième marche du podium pour Lando Norris. Voilà, les derniers mètres maintenant pour Kimi Antonelli, qui va en terminer. Décidément, il domine ce championnat de la tête et des épaules, et il suffit de comparer évidemment avec son équipier chez Mercedes, George Russell, pour voir qu'il n'y a pas photo entre les deux hommes. Et même Antonelli se permet le luxe de rouler plus vite que jamais, en 1 minute 36 secondes et 30 millièmes. Voilà Antonelli qui va maintenant, dans quelques mètres, franchir la ligne d'arrivée. On attend, c'est toujours des sports mécaniques, hein. Christophe, il faut attendre les tout derniers mètres pour être sûr que tout va bien et surtout qu'on est à quelques centimètres et parfois quelques millimètres seulement des murs de ce circuit du Madring en Espagne. Et voilà, c'est terminé pour Antonelli, vainqueur de ce Grand Prix avec 4 secondes et demie d'avance sur Verstappen, qui sera parvenu à rester sur la deuxième marche du podium au détriment de Norris, troisième, Leclerc et quatrième avec la première et l'unique Ferrari rescapée, Russell cinquième, Lawson sixième, Colapinto septième, Piastri huitième, Lindblad neuvième, Hülkenberg dixième, Ocon termine onzième, aux portes des points devant Gasly douzième.
Ouais, Madring, hein, c'est le surnom de ce circuit. Bah, pas si fou que ça finalement, puisque personne n'a pu doubler personne, hein. C'est quand même dommage de faire des circuits hyper modernes et ne pas justement laisser de la place pour que les pilotes se doublent, alors que on a l'impression que le règlement poussait justement en la faveur de garçons qui puissent se doubler. Bah, c'est pas le cas avec ce nouveau circuit, c'est bien dommage, hein, Jean-Luc.
Bah, c'est dommage, d'autant plus que Verstappen a dit, mais pourquoi on ne nous demande pas notre avis, à nous, pilotes? Ouais. Moi, je me rappelle, évidemment, c'était il y a très très longtemps. Tu n'étais peut-être pas né non plus.
Oh, Ça fait vraiment très 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 longtemps. Hein.
Voilà, ben bah, oui, mais attends, tu vas voir, je vais te parler, ben bah, oui, elle peut rire, elle a le droit. Je vais te parler du circuit Paul Ricard. Ah. Eh bien, lorsque ce circuit... qui a longtemps été considéré comme étant le plus beau au monde, ouais. Eh bien, on avait consulté les pilotes de l'époque, beaucoup de pilotes, François Sever notamment, avait donné son avis, Jean-Pierre Beltoise, etc. Et on avait établi les courbes en fonction de leurs desiderata pour que les Grands Prix soient spectaculaires, et ça avait été le cas. Donc Verstappen a dit, mais pourquoi personne ne nous a, alors qu'on élabore ce tracé depuis 3 à 4 ans maintenant, pourquoi personne ne nous a demandé notre avis, et on aurait ménagé des zones de dépassement parce que c'est l'intérêt de tout le monde. Bon, enfin, c'est comme ça. Tu sais très bien que pour le moment...
écrase la pédale d'accélérateur et tais-toi, hein, et surtout écrase-la. Ouais,
c'est en gros, c'est ça. Oui, on leur dit surtout d'écraser, mais surtout de ne pas l'ouvrir, même si ça ne gêne pas Verstappen, comme tu le sais. Mais bon, ouais. En tout cas, ils montent sur un nouveau podium derrière Antonelli. Et je le disais, bon, c'est quand même cette domination incroyable d'Antonelli qu'il faut souligner, hein. La pole lui avait échappé pour 11 petits millièmes seulement à l'avantage de la surprise Lando Norris. Eh bien, il a réussi à remettre les choses dans l'ordre avec une très belle stratégie de l'équipe. On a très bien réagi.
Et avec l'aide de la stratégie de McLaren aussi, qui a été vraiment pas terrible.
Ben oui, tu sais, à un tour près, hein, c'est ce qu'on dit souvent, tu l'évoquais tout à l'heure, c'est vrai que le sort de Grand Prix comme cela, eh bien, se joue avec la stratégie. Je te dis, faudra juste vérifier s'il avait la capacité, Norris, de rentrer dans la voie des stands au moment où le virtuel safety car est sorti. C'est la seule réserve que j'aimais, sinon c'est une erreur de McLaren, c'est évident. Et à l'avantage, eh bien, on a bien réagi du côté de Mercedes et de Red Bull pour assurer ce podium. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'on a quand même quatre pilotes issus de quatre écuries différentes aux quatre premières places, une Mercedes avec Antonelli, une Red Bull avec Verstappen, une McLaren avec Norris et une Ferrari avec Charles Leclerc. Et puis ensuite, on retrouve évidemment une Mercedes, celle de Russell. Et puis on retrouve l'autre Red Bull de Lawson qui a fait un très beau boulot en terminant sixième devant Colapinto. Là aussi, il va falloir s'habituer à cet Argentin qui termine régulièrement dans les points maintenant avec la deuxième Alpine. Il est septième. Celui qui est un peu en demi-teinte, c'est Piastri, hein, avec la McLaren seulement huitième.
Parfait. Ben on analysera tout ça et on vous livrera le fruit des pensées de Jean-Luc et de tous les spécialistes de F1 d'RMC demain dans Paddock, hein, podcast consacré à la Formule 1. Merci Jean-Luc. Victoire d'Antonelli qui renforce un peu plus son rang de leader du championnat du monde de Formule 1. 16h42, c'est pas encore terminé à Pierre-Mauroy, il reste moins de 10 minutes à jouer. Kevin est toujours cet avantage minime, mais avantage pour les Lillois.
Ouais, 7 dernières minutes à jouer dans le temps réglementaire de cette seconde période, toujours ce score, cet avantage maigre d'1-0 depuis le but de Thiago Santos en première période, le coaching de Stéphane Dumont avec les entrées en attaque de Renaud Ripard, l'inusable attaquant troyen, et également de Koné pour tenter d'aller égaliser, mais pour l'instant les Lillois qui sont en maîtrise donc dans cette fin de match, 1-0 toujours à 7 minutes de la fin de cette seconde période.
Bon, Charlotte
période.
A plein de trucs à nous dire, elle réfléchit à son analyse qu'elle vous livrera, messieurs dames, dans un instant, juste après la pub. T'as encore quelques secondes pour parfaire ton analyse.
Un petit peu.
A tout de suite sur RMC.
RMC Intégral Sport.
Christophe Cessieux.
16h47. Charlotte va pouvoir vous livrer le fruit de sa réflexion, de son analyse sur ce match.
Grande
entre,
réflexion.
Ouais. Entre Lille et Troyes. Bon, c'est pas une purge, mais bon, ça y ressemble. Non.
Ah, peut-être pas une purge.
Attention, qui regarde là, qui va servir Gaëtan Perrin. À la limite, faute, sans doute une faute de l'attaquant, mais Ethan Mbappé qui va récupérer le ballon et frapper. C'est capté par Beach. Il y avait peut-être une faute de Gaëtan Perrin, donc ce but aurait sans doute été annulé quand il a essayé de tacler ce ballon, Gaëtan Perrin. Et derrière, le défenseur Monfray qui avait remis sur Ethan Mbappé. Et donc, la frappe de Mbappé captée par le gardien. C'est la deuxième frappe cadrée seulement de cette seconde période. Et la première, elle était pour les Troyens. Donc, ça montre en effet qu'on a eu une pâle copie des deux côtés sur cette rencontre pour l'instant. 89e minute de jeu à Pierre-Mauroy. 1-0 pour le LOSC face à 3.
Après, on a eu un super but. Hein.
Est-ce qu'un but
Il faut se contenter
de ce qu'on a. Tu as raison, exactement. Je suis trop gourmand peut-être.
Non, après je pense qu'il gère, il y a beaucoup de fatigue et puis Troyes a fait rentrer un peu d'expérience avec Renaud Ripart notamment et le Doiron qui a décalé sur le côté droit. On essaye de faire des choses avec Troyes, mais c'est vrai qu'ils n'ont pas un effectif pléthorique comme Lille par exemple qui ont fait rentrer Ethan Mbappé, Giroud, Perrin. Mais il y a beaucoup de gestion. Après je trouve que c'est quand même très très limité là en termes de jeu, d'envie, de percussion de la part des Lillois. Donc oui, certes il y a de la fatigue, mais il y a quand même la qualité pour les Lillois de au moins repartir avec plus d'opportunités offensivement, plus d'action, plus de frappes, plus de créativité. Là je pense que c'est compliqué
pour eux. C'est quand même tout bénef pour les Lillois, enfin si ça se termine à 1-0 effectivement après ce match de Ligue des Champions, fallait se remettre dans le sens de la marche après cette défaite très frustrante.
Je pense que ça a été
ils sont co-leaders du championnat malgré tout. Hein.
Oui, Ethan Mbappé avec qui regarde dans la surface de réparation. La frappe du milieu danois captée de nouveau par Patrick Beach était à ras de terre. C'était pas très puissant. 90e, on approche du temps additionnel dans cette fin de période et ce score toujours d'1-0 donc qui reste à 1-0 en faveur des Lillois.
Ah, parce que pour rappeler, ils avaient fait une super première période hein, contre le Bétis. C'est vraiment le but des joueurs du Bétis qui en deuxième mi-temps qui a fait extrêmement mal. Mais là c'est vrai que Ethan Mbappé il a envie.
Mbappé de nouveau sur le côté droit de la surface de réparation, la frappe de Mbappé, c'est encore contré par le portier troyen. Ça va sortir en touche, mais on trouve beaucoup Mbappé. Il y a de l'espace là sur son couloir droit pour Lillois et on arrive à le trouver, à bien le trouver. Pour l'instant ça ne se convertit pas en but, mais le danger se fait de plus en plus pressant sur cette fin de rencontre pour les Dogs. La touche à venir pour Thiago Santos, peut-être pour mettre directement dans la surface de réparation. Ce sera sur Kjærgaard qui va la remettre directement en touche, et cette fois la remise en jeu elle sera pour les Troyens dans leur partie de terrain.
Ouais, forcément plus d'espace parce que les Troyens ils n'ont pas envie de regretter. Il y a seulement 1-0 pour les Lillois. Essayer d'avoir des opportunités offensivement, on a fait rentrer notamment expérimenté Renaud Ripart, donc il y a des espaces à exploiter sur les côtés, notamment avec Ethan Mbappé.
Et Benjamin André est entré hein, d'ailleurs pour les 5 dernières minutes. Je vous le disais, d'habitude capitaine indéboulonnable de ce milieu de terrain côté Lillois, il est entré en jeu donc pour la fin de match. Et là attention parce que les Troyens vont essayer de se projeter. Non, finalement c'est récupéré par Benjamin André et du coup il y a de l'espace peut-être pour les attaquants. C'est de nouveau Mbappé qui est servi, Ethan Mbappé qui remet derrière sur Gaëtan Perrin qui remet sur Mbappé dans l'angle de la surface de réparation et ça va ressortir de la surface. Mais encore Ethan Mbappé qui a le ballon et qui va rejouer finalement derrière lui. 91e et 30 secondes dans ce match à Pierre-Mauroy. 1-0 pour le LOSC.
Voilà, Lille qui, si le score en reste là, rejoindrait Monaco en tête du championnat. Égalité parfaite avec une différence de plus 4 et 10 points pour les deux clubs. Rennes, Kevin n'est que 3e. Hein,
Mais Lille Lille gagne de façon différente parce que c'est vrai que jeudi dernier du côté de Toulouse c'était une sorte de braquage avec 10 parades, 2 airs et vraiment des expected goals pour Toulouse qui était énorme comparé à ceux de Lille. Mais c'est Lille qui l'avait rapporté 1-0. Là la physionomie est différente contre un promu, mais quand même ce score qu'ils arrivent à conserver cet écart malgré seulement ce petit but d'avance.
On rappelle que les matchs à venir, vous aurez droit au Mans face à Lens. Ce sera dans un gros tiers.
Regarde pour Mbappé dans la surface de réparation, le but de Mbappé. Le break est fait pour le LOSC à la 93e minute de jeu. Et c'est Ethan Mbappé, il avait peut-être des choses à se faire pardonner. Servi sur le côté droit de la surface de réparation et il n'a pas hésité, il a bien trouvé la faille pour tromper Beach. Il s'était fait expulser en début de seconde période cette semaine en Ligue des Champions et Lille s'était incliné 3 buts à 2 face au Betis. Et là donc il met les Lillois à l'abri en fin de match face à 3. Ça fait 2-0 donc pour Lille à la 93e face à l'Estac.
Ouais, j'ai l'impression qu'il y a main d'Olivier Giroud, il fait sa prise de balle, le ballon remonte. Après l'action elle est très bien menée hein, de la part des Lillois. On est en train d'avancer, on met de l'intensité, plat du pied, sécurité de la part d'Ethan Mbappé, mais forcément ça va être revu. Belle rentrée aussi du Danois.
Au départ de l'action, ouais, c'est ça, Charlotte.
Il fait un contrôle et puis le ballon monte et touche la main. Il me semble, j'ai vu rapidement le premier ralenti. Forcément, ça va être checké par l'assistant vidéo.
Pour l'instant, ouais. On n'a pas de signal que c'est revu par le VAR, même si il y a un petit doute. 93e minute et 30 secondes et c'est reparti. Le but est bien validé. 2-0 donc pour le LOSC. Cette passe de décisive de Kjærgaard vers Ethan Mbappé qui permet donc aux Lillois de mener 2-0 alors qu'il reste 20 secondes dans le temps additionnel, dans les 4 minutes qui avaient été accordées au départ dans cette fin de match.
Et ben voilà, Lille.
Faut peut-être leader. Que je change de lentille en fait, parce que ouais, qu'il y avait pas main les amis.
Qu'on change de télé. Une plus grosse télé. Elle est pas assez grosse pour Charlotte. Non mais on n'a pas vu le ralenti donc on
peut. J'ai vu vite fait donc c'est pour ça que je suis un peu étonnée.
Ton œil de lynx. Trompé.
Exactement, j'ai un œil de lynx mais là je pense qu'ils sont à l'envers mes yeux mais.
Bon, et si
le premier but pour Ethan Mbappé quand même depuis décembre 2025 hein, en Ligue 1 dans un match officiel pour le frère de Kylian. Et là ce ballon qui va sortir en 6 mètres pour Berke Özer qui va donc pouvoir dégager. On est au-delà des 4 minutes de temps additionnel à Pierre Monroy et donc le LOSC qui est devant 2-0.
Bah oui, et le LOSC qui est en tête du championnat quoi.
Fallait une réaction et ce qui est intéressant cette année c'est que tout le monde peut gagner contre tout le monde donc on a vu que voilà Marseille c'est extrêmement compliqué, que Rennes malgré que ils soient supporters Kevin, ils ont failli se faire avoir contre Le Mans hein, parce que franchement Le Mans
même Angers c'était pas
Angers
maîtrisé
aussi. donc non, même si c'est une très très belle équipe hein, Rennes, donc c'est intéressant. Il y a un match nul contre PFC Lyon
et c'est terminé. Terminé à Pierre Monroy avec donc cette victoire 2-0 du LOSC. Le break accordé par Ethan Mbappé en fin de match après le but de Thiago Santos en première période. Victoire donc face au promu troyen pour le LOSC qui prend provisoirement la tête du championnat.
Et oui, effectivement, victoire importante, victoire méritée. Ils ont dominé, marqué un but en tout début de match, un autre à la fin.
Ils ont géré.
85 minutes où ils ont géré.
Exactement, une super frappe de Thiago Santos qui est encore une fois buteur. Donc, le latéral droit qui est très intéressant. Après, il y a eu beaucoup de gestion aussi d'effectifs de la part de David et Ancelotti et de son staff. Et puis après, on a maîtrisé, on a fait rentrer un peu les joueurs d'expérience, Olivier Giroud et Ethan Mbappé aussi, qui s'est révélé sur son côté droit avec ce but. Benjamin André qui s'est reposé aussi, donc tout ça c'est de la gestion des effectifs du côté de David et Ancelotti. Les Troyens ont eu des opportunités donc un petit peu triste pour eux, mais c'est vrai que voilà, les Lois à partir du moment où ils commencent à accélérer ils peuvent faire mal.
Troyes qui va occuper la 10e place ce soir en attendant les deux matchs qu'il reste encore à jouer. Dans 20 minutes, le coup d'envoi de Le Mans-Lens. Charlotte, un petit mot sur ce match. On attend quand même un réveil des Lensois qui, en Ligue des Champions, ont assuré. En championnat, c'est plus compliqué.
Ils nous ont fait peur en Ligue des Champions cette semaine. Oui.
Incroyable.
Match de fou contre Lorient. C'était un match assez fantomatique de la part des Lensois. Donc, ils auront à cœur de montrer mieux aujourd'hui. Et puis il y a ce match aussi Brest-PSG qu'on attend ce soir
évidemment. Le réveil de la bête,
il faut
un moment.
Mais attention à Brest hein. Francis Leblay c'est
un stade une ambiance très particulière.
Exactement, pour
parce que Brest va rendre hommage à son entraîneur Éric Roy disparu cet été. Merci Charlotte.
Merci Christophe.
Charlotte et son œil de lynx qui voit des mains où elles ne sont pas. Et t'avais donné,
je vais regarder ralenti, j'avais dit 1-1 mais bon.
Ouais.
J'étais pas loin, mais je suis.
Il y a eu deux buts dans le match.
Il y a eu deux buts.
Merci Charlotte. Merci. À la semaine prochaine pour un autre match. On a quoi la semaine prochaine? T'as regardé déjà?
On n'a pas Auxerre la semaine prochaine.
On a quoi? J'ai pas entendu.
Il y a pas Auxerre la semaine prochaine?
Ah, Auxerre peut-être. Ah oui, Auxerre. Ouais.
Attends, je regarde.
Là, ça va être énorme ça. 16h56, un petit détour par la Vuelta. C'est parti, Maria, pour la dernière étape. Bon, c'est comme comme sur le tour à Paris, on boit du champagne, on mange des petits fours.
Oui. Ça devrait s'accélérer, on va dire, au moment de l'entrée dans le circuit final, hein, qui sera parcourir 4 fois. Ce sera à peu près à 70 km de l'arrivée. On est encore à 102 km de l'arrivée. Donc oui, place aux photos, on boit du champagne, on rigole, on discute avec les copains. C'est tranquille pour l'instant. Mais comme sur la dernière étape du Tour de France, on va avoir une étape un peu plus accidentée à partir de 70 km de l'arrivée. Ça devrait être un petit peu plus sympa dans quelques instants, mais pour l'instant c'est plus convivial, on va dire, cette 21e étape de la Volta.
Ne force pas trop sur le champagne, Maria, je sais que tu aimes ça, donc attention à toi. Merci beaucoup. 16h57 dans un instant, Christophe Plédé, Maxime Chabat. Oh là là, il y a du gros, il y a du lourd, il y a du beau surtout avec ce match entre Le Mans et Lens, et puis évidemment la soirée qui ne fait que débuter sur RMC, soirée orgiaque avec des événements en veux-tu en voilà. Ça va être un régal avec notamment au point d'orgue la finale de la Coupe du Monde de basket entre la France et les États-Unis. Bonne soirée, régalez-vous.
RMC Intégral Sport.